Je me sentais assez fort et puissant, mais je ne me sentais pas heureux. Et c'est quelque chose qui m'interpellait parce que selon les standards avec lesquels j'avais grandi, en fait, j'aurais dû être heureux puisque j'avais un truc que plein de gens rêveraient d'avoir. Démarrer ma carrière ou un poste où plein de gens rêveraient de terminer la leur. Donc, c'était un petit peu surprenant de pas être heureux dans ce cadre-là. L'image que j'ai envie de partager, en fait, c'est aux gens qui doutent ou qui ont peur ou quoi, parfois, c'est de se dire, ben, justement, ayez confiance, la rivière est là. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Au-delà du barrage, il y a toute une vie. Qui se construit autrement. Et c'est là où il faut accepter justement ces incertitudes-là, accepter les coups durs, accepter que ça puisse pas toujours se passer comme on l'avait imaginé. Mais aussi, quand on a ce socle de la relation à soi qui est suffisamment solide, ben on traverse. Et puis, il y a le destin, comme je disais, les coups du sort, du hasard, du destin, de la vie, etc., qui nous amène à faire des rencontres qu'on n'imaginait pas pouvoir faire.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences « Nouvelle génération ». Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix ? Il y a 17 ans, j'ai assisté au spectacle de Paul « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Je ne me souviens pas de tous les spectacles que j'ai vus, mais celui-ci, je peux vous dire qu'il m'a clairement marqué. J'avais évidemment hâte de l'interviewer, mais j'étais loin d'imaginer à quel point cette interview avec Paul allait me toucher. Nous nous sommes livrés mutuellement sur des choses que nous n'avions pas prévu de raconter en amont du rendez-vous. C'est aussi ça, la magie du podcast. Après une école de commerce, Paul se retrouve à diriger une compagnie aérienne. Il se retrouve au chômage et décide de se lancer dans la vente directe. De fil en aiguille, il va écrire un livre qui va cartonner, puis faire des conférences sur tout ce qu'il a compris. Jusqu'à ce qu'il rencontre John Gray et qu'il décide d'accompagner les couples pour les aider dans leurs difficultés. Il adapte alors le best-seller « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus » en un one-man show et qui continue à être un succès phénoménal. Paul est aujourd'hui auteur et comédien. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Paul Devendre. Bonjour Paul.
Salut Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ?
L'objet que j'ai choisi, c'est un petit kayakiste. Et pourquoi ? Ben parce qu'évidemment, on va parler de kayak, de rivière et de barrage. Et c'est une image avec laquelle je vis depuis maintenant plus de 20 ans. Et donc, c'est une image qui m'accompagne au quotidien. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui.
Génial. Avant qu'on parle justement de cette balade sur la rivière, est-ce que tu pourrais nous parler là où tu as grandi ?
Alors, j'ai grandi en Belgique, à Bruxelles. J'ai fait des études d'une école de commerce. Et puis, j'ai eu la possibilité de créer une compagnie aérienne en Belgique. Donc, on était en 87-88, il y avait le 1er janvier 93 à l'horizon, l'abolition des monopoles nationaux. Et dans cette mouvance-là, on a créé au départ de Liège une petite compagnie aérienne régionale. Et donc, ça a été une magnifique expérience d'acheter les avions, d'engager les pilotes et tout ça pour faire une toute petite compagnie aérienne fonctionnant avec 3 avions quand même, c'était pas mal, de 35 places. Et on a fait des vols entre Liège, Paris, Londres, Nice et différentes destinations.
Et juste avant, retour en arrière, t'étais quoi comme type de petit garçon ?
Comme type de petit garçon, j'étais un petit garçon un peu crédule. Parce que mon histoire, c'est que mes parents sont séparés à ma naissance, et que ce qui est assez surprenant, c'est que jusqu'à l'âge de 13 ans, je ne l'ai pas su. En fait, ma mère m'avait... Je ne l'ai pas su.
Jusqu'à quel âge?
Jusqu'à 13 ans. Ouais. En fait, ma mère m'avait dit, papa travaille trop loin, il peut pas rentrer tous les soirs à la maison. Et donc, je passais quelques heures le samedi après-midi avec mon père, puis ils repartaient, comme si de rien n'était. Et pour moi, c'était normal, j'y croyais, parce que je pense que les parents, les enfants sont programmés à croire leurs parents. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai 3 grandes sœurs, une sœur qui a 11 ans de plus que moi, une sœur qui a 8 ans de plus que moi, une petite sœur qui a 2 ans de plus que moi. Mes 2 sœurs aînées étaient au courant de la vérité, parce qu'elles, c'était difficile de leur dire, papa travaille trop loin, mais, ma mère voulait nous protéger, les deux petits, protéger de je sais pas quoi, et tout ça. Non, mais en tout cas, donc, on a vécu j'ai grandi dans cette illusion-là. Okay. Et donc, évidemment, c'est pas pour rien que j'ai fait Mars et Vénus, par la suite. Ça vient évidemment de cette par enfance un petit peu particulière d'avoir grandi là-dedans. Alors, l'idée
comment
de ma
tu
mère.
L'as vécu, comment tu l'as vécu quand tu as découvert, ça?
Ben, à 13 ans, je commençais à m'en douter quand même un tout petit peu. J'avais pas très bien compris pourquoi on mentait. Mais donc, il y a une histoire par rapport au mensonge qui est assez prégnant chez moi. Et par rapport aux promesses aussi, par rapport au fait d'être manipulé. Un enfant est innocent et pourquoi ne pas nous dire la vérité? Il y a un petit truc comme ça. Imaginez que les adultes mentent aux enfants. Je trouvais ça un peu bizarre. J'ai grandi avec ça. Et alors, en même temps, il y a eu un côté confortable, peut-être, justement, d'être dans cette illusion, de pouvoir, j'ai pas été ballotté entre mon père et ma mère, etc. Donc, il y a eu quand même une sécurité qui était peut-être bonne. Alors, je sais pas comment ça aurait été autrement, mais en tout cas, ça m'a joué aussi mon rôle de père aussi. Parce que j'ai été triste de pas voir mon père, mais j'ai pas eu de blessure par rapport à lui, donc la page était un peu blanche, peut-être pour construire mon histoire de père avec mes enfants.
Et quand t'étais un petit garçon, c'était quoi tes rêves? Quand t'étais un petit garçon, c'était quoi tes rêves?
Mes rêves, mais j'en avais pas des masses. C'est ça qui c'était un peu surprenant. J'étais là pour faire ce qu'il fallait faire, quoi, un petit peu. Je savais pas trop. Tu vois, il y a une part de moi qui avait pas complètement confiance en, justement, en mon intuition et tout ça, parce que il y a une partie de moi qui savait qu'on ne me disait pas la vérité, et il y a une partie de moi qui me dit, j'ai pas le droit de me poser toutes les questions que je veux, parce que je sentais bien que j'avais pas le droit de poser certaines questions à ma mère, donc je ne m'autorisais pas complètement, justement, à rêver, à être totalement insouciant et, donc je crois que j'ai vécu un peu un petit peu endormi par rapport à ça, par rapport à mes rêves, par rapport à mes aspirations ou les attentes de la vie, etc. En fait, c'était pas des réflexions que j'avais, mais j'ai grandi, j'étais dans une chorale c'était un peu les petits chanteurs à la croix de bois de en Belgique, c'était une très bonne chorale dans mon collège et je chantais une heure par jour. Donc une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment bercé toute mon enfance. C'était dans ces chants et dans cette chorale. Et puis le sport.
Donc, aussi. La voix et la scène étaient déjà présentes dans ta vie.
Oui, mais j'imaginais pas du tout. Hein. Mais c'était marrant parce que c'est vrai qu'on était. J'ai fait partie des l'Opéra National de Belgique, le Théâtre de la Monnaie, quand il avait besoin de chœurs d'enfants pour les opéras, faisait appel à notre chorale. Et donc j'étais quelquefois. Faire des opéras là-bas, et donc j'ai eu 7-8 ans, j'étais sur scène, mais j'imaginais jamais en faire un métier ou une activité, c'était pas mon truc, mais voilà, c'est vrai que la vie m'a rattrapé par rapport à ça.
Et au moment du coup de choisir les études, ça s'est passé comment pour toi?
Et choisir les études, ben je savais pas très bien quoi faire, justement, et donc j'ai pris... j'hésitais entre la médecine, j'aime pas le sang et tout ça, donc médecine, j'y pensais pas du tout. Mon grand-père avait été ingénieur, mais comme j'ai jamais vraiment vu mon père travailler, etc., donc je savais pas très bien, j'ai pas beaucoup de notions j'ai pas grandi avec quelqu'un qui travaillait à la maison, donc c'était assez marrant. Donc je savais pas très très bien quoi faire. Le droit me tentait pas trop et tout, donc je suis parti sur une école de commerce en fait. Je me disais c'était le truc le plus général et qui offre le plus de débouchés après, mais je savais pas exactement justement ce que je voulais faire de ma vie, comment, enfin j'avais pas vraiment de passion particulière à développer, donc voilà, je suis parti sur une école de commerce.
Et du coup là tu disais donc après que c'est pile poil suite à l'école de commerce où t'as monté.
Et puis donc après les écoles de commerce, donc j'ai bien aimé, j'étais pas brillant comme élève parce que je faisais beaucoup de sport aussi et tout ça, j'ai joué au hockey beaucoup, hockey sur gazon en Belgique, c'est assez populaire. Mais j'étais assez actif dans une association d'étudiants qui proposait des stages pour des étudiants à l'étranger et qui faisait venir des entreprises sur le campus pour les embaucher, etc. Enfin, donc, il y avait pas mal d'activités. J'ai organisé un concours boursier au sein de cette association donc j'étais très actif là-dedans, et donc ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat et de l'envie de l'entreprise, etc. Et là, j'ai eu la possibilité, justement, j'étais chez Unilever, était un des partenaires des journées qu'on organisait. Unilever, c'est une multinationale qui vend les produits comme Dreft et les poulets, les poudres, les poudres à lessiver, toutes les mayonnaises et tout ça.
Pour ceux qui c'est énorme.
Mais c'est énorme, multinationale. Et donc j'ai fait un stage de quelques mois là-bas et puis pendant mon service militaire j'ai eu la possibilité de faire une étude de marché pour l'aéroport de Liège et c'est comme ça que le projet compagnie aérienne est né. Mais évidemment le projet compagnie aérienne était un petit peu aventureux par rapport à Unilever qui était quelque chose de sûr de certains etc. Évidemment ma mère m'encourageait à aller chez Unilever mais j'avais un petit doute et j'ai eu une conversation en fait avec le directeur d'Unilever. Je sais pas pourquoi je suis tombé là avec lui. Le DRH m'aimait bien et donc il m'a dit tiens viens. Et j'avais parlé au DRH de mes deux choix et le DRH m'a dit viens on va parler au directeur. J'avais 26 ans, personne ne le voit pour ce type d'embauche, mais il m'aimait bien. Et ce directeur là m'a dit prends RXL. Et la manière dont il l'a dit, c'était en fait, j'ai vraiment ressenti quelqu'un qui me disait, mais en fait, j'aurais bien aimé à 25 ans que quelqu'un me dise de prendre un peu de risque dans ma vie plutôt que de jouer la sécurité, la carrière directement. Et c'est drôle parce que c'est vraiment une image qui m'est restée. Je vois encore la tête de ce directeur qui me dit, vas-y, prends. Du genre, ok, là, je joue pas pour ma boîte. Ouais, je t'aime bien et tout ça, voilà. Prends ton envol et vas-y et prends des risques. Et j'ai vraiment ressenti, j'aurais bien aimé que quelqu'un me le dise à mon âge. Et si quand j'avais son âge et voilà. Donc c'était un moment assez sympa. Et donc c'est comme ça que je suis parti sur ce projet de compagnie aérienne qui a été très très sympa jusqu'en 91 où là il y a eu la crise du Golfe. Une grosse crise en transport aérien et donc là on a malheureusement dû déposer le bilan parce qu'on n'a pas pu être soutenu par les pouvoirs publics puisqu'on était totalement privé.
Et là à ce moment-là comment tu te sens quand tu prends ce poste, tu as peur, t'es comment?
Et j'ai peur oui et non, enfin j'ai peur et en même temps je me sens un peu comme un petit golden boy un jeune gars parce que j'avais une magnifique voiture de fonction, je voyageais en première classe dans le monde entier, on avait des accords avec les compagnies aériennes, donc je prenais mon vol en première classe pour aller passer le week-end à Bangkok et des choses comme ça, donc c'était assez assez sympa et donc parfois je me la pétais sur moi un petit peu justement par rapport à ça, puis on va en reparler, mais c'est un truc qui m'a interpellé un petit peu parce qu'en fait je me sentais assez fort et puissant mais je ne me sentais pas heureux. Et c'est quelque chose qui m'interpellait parce que selon les standards avec lesquels j'avais grandi, en fait, j'aurais dû être heureux puisque j'avais un truc que plein de gens rêveraient d'avoir. J'ai démarré ma carrière ou un poste où plein de gens rêveraient de terminer la leur. Donc, c'était un petit peu surprenant de pas être heureux dans ce cadre-là. Et puis c'est tout ça justement, c'est ce passé, ce parcours-là qui m'a amené à vraiment réfléchir justement par rapport à la vie et par rapport à ce qui nous rend véritablement heureux. Alors je sais pas si on commence déjà maintenant ou si on en parle un petit peu plus tard.
On attend encore un peu.
On fait un petit teasing.
Un petit teasing, exactement. Du coup, là, quand la compagnie aérienne se casse la figure, tu te retrouves au chômage?
Je me retrouve au chômage à 30 ans et donc là, je me retrouve un peu déjà, c'était pas spécialement simple. 30 ans, célibataire, sans emploi, belge en plus, le tableau n'est vraiment pas idyllique. Et là, ben, j'essaye de faire comme on a appris, hein, de retrouver un poste, n'importe lequel, et tout. Et puis je me rends compte que c'est pas si évident que ça, parce que j'ai un parcours un peu atypique. Donc à mon âge, c'était pas si évident de retrouver quelque chose qui était intéressant et en même temps qui était dans mes cordes par rapport à ce que j'avais vécu. Certaines personnes ne voulaient pas m'embaucher parce que j'avais déjà eu un poste supérieur au leur, etc.
Tu pouvais faire peur en fait.
C'est ça, je faisais un petit peu, c'était un peu atypique. Puis j'étais jeune aussi, donc j'avais pas non plus énormément d'expérience. Et puis j'étais peut-être un peu un chien fou. Il n'avait peut-être pas envie d'avoir des gars comme moi et chercher des gens peut-être un petit peu plus carrés. Mais donc, ça a été une période assez difficile parce que vraiment de remise en question et tout ça. Et puis après, ben là, j'ai rencontré ma femme et puis je me suis à travers la vente directe. En fait, j'ai eu une petite annonce dans la vente directe et ce message-là m'a interpellé. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et à travers la vente directe, je me suis intéressé à la manière dont la société est en train d'évoluer et comment les nouvelles technologies pourraient impacter nos manières d'acheter et de travailler. Enfin, nouvelles technologies, on est à l'époque du fax et du Minitel encore. Hein. Enfin, c'était le tout début des téléphones portables, mais c'était vraiment encore très précurseur. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon premier livre sur ces tendances socio-économiques et sur la vente directe. Et puis, en fait, à travers ce livre-là, en fait, j'ai bifurqué parce que des gens qui avaient lu ce livre me disaient, mais ça peut intéresser d'autres personnes aussi qui ne sont pas spécialement dans la vente directe, mais qui sont intéressées par l'évolution de la société. Et c'est comme ça que j'ai sorti mon premier livre, La parabole du barrage, donc qui explique un petit peu justement la vision du monde que j'ai déconstruite depuis une trentaine d'années maintenant, c'est sur mon parcours. Et ce livre a eu un petit peu de succès, et ça m'a permis de rentrer. Et puis dans ce parcours personnel-là, en fait, ça m'a permis de rentrer en contact avec une association de chefs d'entreprise. Et puis j'ai commencé à faire des conférences un petit peu là-dessus, à parler en public. Et puis aussi, dans ce parcours personnel, j'ai été pour me former. J'aimais bien les relations humaines et ça, j'étais vraiment tombé là-dedans. Et dans mon parcours personnel, j'ai été aux États-Unis pour suivre un cycle de formation sur le leadership. Certains de tes auditeurs doivent sûrement connaître, c'est chez Anthony Robbins.
C'est marrant, j'ai regardé, il a fait il a été suivi par Netflix, c'était en 2016, je crois. Mm-hmm. Et c'est marrant parce que je l'ai regardé ce reportage, mais il y a 2-3 ans. Ouais. Et je me suis dit, tiens, j'ai commencé ça cette semaine, je me suis dit, tiens, je vais le réécouter avec un nouveau regard.
Ouais.
Et ouais, il est assez incroyable.
Ouais. Non, il a une énergie assez dingue. Alors, je sais pas très bien comment ça a évolué, parce que je crois que maintenant la société est en train d'évoluer aussi par rapport à ce qu'il pouvait dire encore il y a une vingtaine d'années, mais il y a 25 ans, c'était vraiment c'était toute la force masculine dans toute sa splendeur. Je pense qu'il manquait un peu de féminin peut-être dans son approche et d'intuition, etc. Mais c'était vraiment tout sur le. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et donc il avait un cycle de formation 3 jours, le UPW en Europe, et il le faisait à Bruxelles. Il y avait 1000 personnes. C'était vraiment le tout début en Europe. C'est il y a 25 ans. C'était en 95. Et puis je me suis dit, je me lance, et j'ai été faire tout son parcours aux États-Unis aussi. Et donc tous les soirs, il y avait des intervenants extérieurs qui venaient. Il y a eu le général Schwarzkopf, c'est difficile à prononcer, celui qui avait le général en chef de la crise, la guerre du Golfe aux États-Unis. Il y avait Deepak Chopra, enfin plein de gens comme ça. Et il y avait aussi John Gray, qui venait de sortir son fameux best-seller « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Et quand j'ai entendu John Gray, là, j'ai vraiment adoré ce que j'ai entendu, parce que ça a résonné par rapport à mon histoire personnelle, par rapport au fait d'avoir grandi dans un univers très féminin avec 3 grandes sœurs et juste ma mère, et où je me sentais parfois différent, mais je savais pas comment et pourquoi justement dans cette enfance. Et là, j'ai vu, en fait, c'est con, mais j'étais juste un petit mec, quoi. Et donc, ça m'a beaucoup interpellé, et j'ai commencé à en parler autour de moi de manière drôle, parce que tu vois, je suis pas psy et tout ça. Mais les gens trouvaient ça marrant, la manière dont j'en parlais. Et puis, j'en ai fait des séminaires. Je suis rentré sur les questions de parité, d'égalité. J'ai fait énormément de séminaires en entreprise là-dessus pendant une dizaine d'années. Mais les gens trouvaient ça assez marrant et tout, et ils disaient, il faudrait que tu fasses du théâtre, il faudrait que tu vois one man show et tout ça. Mais je sais pas, je suis jamais monté sur scène, j'ai aucune idée, je sais pas du tout comment ça marche. Mais mon petit côté entreprenant et entrepreneur, ça faisait un peu titiller ça. Et donc j'ai loué en 2006, j'ai loué un café théâtre à Marseille, au Quai du Rire, pour tester cette idée là 4 soirs, pour voir un peu ce que ça pouvait donner en one man show. Et puis ça a été le début d'une formidable aventure, parce que ce spectacle, je l'ai déjà joué maintenant, je l'ai joué plus de 2000 fois. Il y a eu 2 millions de spectateurs. C'est devenu un peu un spectacle référence, quoi, sur les relations entre les hommes et les femmes.
En fait, c'est amusant parce que j'ai lu le livre. Enfin, en vrai, je l'ai même pas vraiment lu le livre, ouais, parce que, en toute objectivité, j'ai trouvé ça chiant. Ouais. Mais à l'époque, j'avais emmené mon ex-mari, je l'avais emmené, genre, je sais pas, ça faisait pas longtemps du tout qu'on était ensemble. Il m'a dit, genre, mais mais qu'est-ce que tu me traînes, enfin pourquoi tu m'emmènes ici quoi, enfin vraiment je pense qu'il faisait vraiment la gueule au début de la soirée et ça a été, enfin on a passé un moment absolument génial et on s'est dit en fait à la fin on s'est dit mais il faudrait ça, tous les couples devraient aller voir cette pièce et le voir tous les ans en fait parce que c'est vraiment un truc où tu vois, il y a plein de trucs où on était un jeune couple à l'époque, tu vois, c'était il y a 17 ans. Ouais. Il y a plein de trucs où on se disait, ça nous permettait de comprendre et du coup de faire des blagues en se disant, mais en fait, regarde, là, t'es comme ça parce que là, t'es quand même super relou, faut le dire. Ouais. Mais parce que c'est ta part masculine ou ta part féminine. Ouais. Et ce qui était aussi hyper intéressant, je trouve, c'est de se rendre compte que on a tous du féminin et du masculin en nous, qu'on soit une homme ou une femme. Et du coup, ça permet de mettre en exergue ça. Et c'était drôle parce que, tu vois tout le monde qui est mort de rire. Mmh. Et tu vois vraiment quand même tes voisins que tu ne connais pas se marrent. Et tu vois bien qu'en gros, ça résonne grave. Et on était allé voir le deuxième. Je l'avais réemmené juste avant de nous marier. Mmh. Donc 14 ans après et pareil c'était vraiment vraiment je le recommande à tous les couples. On a arrêté donc du coup notre couple c'est fini mais du coup il faut continuer.
Ouais. Non c'est pas une recette miracle hein, mais il y a plein d'autres enjeux et tout ça des blessures personnelles et tout ça qui vont jouer.
Bien sûr. En même temps. Mais ça me fait pas rire en vrai mais bon. C'est ça, c'est le syndrome du pendu, tu sais, celui qui va juste se faire pendre, il rit, c'est un rire nerveux. Donc là, je dis, je rigole, mais en fait, c'est vrai, c'est pas du tout.
Non, c'est le. Mais ça fait. Mais oui, l'idée vraiment, et c'est vrai que parfois, c'est mal compris, parce que le titre est un peu provocateur en disant les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, ça veut dire que c'est mettre des gens dans des cases. Et moi, au début, quand j'ai entendu le thème, j'avais pas encore lu le bouquin et j'étais un peu sceptique justement par rapport au fait de mettre des gens dans des cases, c'est réducteur, on est tous uniques, etc. Enfin, donc j'étais avec ces a priori là, donc j'étais un peu réfractaire au départ et en fait je me suis laissé vraiment embarquer parce que c'est pas du tout comme tu dis, c'est pas les hommes et les femmes, c'est notre part masculine et féminine en nous et puis c'est comprendre une logique qui n'est pas la sienne. En fait, l'idée n'est pas de se définir soi, mais c'est d'essayer de mieux comprendre un langage qui n'est pas toujours le nôtre en fait. Et c'est comme ça que j'ai essayé vraiment de le présenter. Alors, mais évidemment, en caricaturant un petit peu, en étant un peu drôle pour eux, parce que ce sont des choses qui sont importantes, mais qui peuvent être légères. Et tous les témoignages que j'ai eus, c'est vraiment ça, c'est de dire, mais c'est génial de pouvoir en rire un peu après, quoi. De la légèreté, c'est juste un mec, c'est juste une nana, ou voilà, ou c'est juste ta part masculine ou ta part féminine, mais c'est pas lié à moi, en fait.
Exactement.
Et quand on comprend ça, on a le petit recul qui permet de pas être d'être moins énervé par rapport à ces comportements différents.
Permet vraiment, de comprendre, de se comprendre soi, se dire, tu vois, typiquement le fameux truc. Pour moi, c'était, l'exemple que je prenais à toutes mes copines après en disant, allez voir cette pièce. L'exemple concret, le plus flagrant, c'est quand tu te retrouves devant ton dressing et que tu dis que t'as rien à mettre, alors que ton placard déborde de fringues, et que forcément ton mec te dit, mais elle se fout de ma gueule.
Arrête de mentir, ton armoire est pleine.
Mais c'est vraiment de se comprendre soi et de se dire en fait c'est normal que je réagisse comme ça et puis de comprendre en effet l'autre quand t'as un ours dans la caverne et que tu comprends pas pourquoi
Mais t'en veux et tout alors qu'en fait il t'en veut pas.
C'est ça. Et du coup ça aide vraiment, je trouve, c'est vraiment top. Et du coup, le fait d'avoir pris le nom pour ta pièce de théâtre, t'as dû demander, j'imagine, l'accord.
Oui, j'ai demandé. Mais en fait, donc j'ai animé des séminaires. Donc quand j'ai vu John Gray aux États-Unis, on était 1500 dans la salle. J'étais passionné. J'ai acheté les livres et les cassettes à la sortie. Tu voyais tout le truc, le package américain. J'ai tout écouté en boucle et j'ai commencé à en parler autour de moi. Puis je me suis dit, j'ai envie de diffuser ces idées en français parce que ça me parle. C'est vrai, le bouquin n'était pas traduit en français à l'époque même. Et je savais pas très bien comment faire, et je me dis, si j'envoie une lettre à John Gray en disant j'ai envie de diffuser vos idées en français, il va se foutre de ma gueule, je suis pas psy, enfin, qui suis-je, donc. Et donc, j'ai appelé J'ai invité des copains en disant, voilà, j'ai un truc à vous dire. J'ai loué une salle dans un hôtel. Juste venez écouter ce que j'ai à vous dire, posez pas de questions et venez. Donc, les gens sont venus par curiosité. Mais ce qui m'a permis d'avoir une cassette audio, en fait, que j'ai envoyée à John Gray en disant, voilà ce que je fais. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que tu es d'accord? Enfin, c'est en anglais, tant pis. Est-ce que tu es d'accord? Et de ça que je... Et donc, je savais pas du tout. Et je l'avais pas traduit la cassette, mais j'avais écrit en anglais à côté, etc. Mais au moins qu'il entende le ton et qu'il voit que j'ai fait quelque chose, juste qu'une lettre. Toi, je n'en savais rien. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Donc je me dis, je vais envoyer un courrier. Puis il y avait quelqu'un dans son staff qui parlait français, donc il écoutait. Et donc John m'a recontacté en disant voilà, ben viens aux États-Unis, je peux t'aider. Et donc je me suis formé un petit peu auprès de lui. Et puis donc j'ai commencé mes trucs. Et aux États-Unis, en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis des cours sur cassette vidéo, parce que d'autres personnes comme moi avaient envie de diffuser aussi. Et lui disait si je formais des gens, c'est compliqué, donc je vais faire un cours sur cassette audio, comme ça les gens mettent la cassette, ils m'écoutent moi, donc c'est le message est propre. Et puis ils font des petits exercices entre eux et puis ils rediscutent, et puis et donc ils formaient juste des gens à l'écoute et un peu à l'animation de ces séances là. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais pas commencer avec une cassette d'un Américain doublé dans un hôtel à Paris ici ça va être complètement débile. Donc j'ai dit, ça je veux pas faire. Et lui, il s'en foutait. Il m'a dit, fais comme tu veux. Et puis donc, c'est comme ça que j'ai développé mes séminaires. Mais donc avec son accord et ça, donc je le voyais régulièrement. Et quand j'ai l'idée d'en faire un one man show, il rigolait un petit peu parce que tous les grands majors américains l'avaient déjà contacté, parce que le bouquin à l'époque, donc après, a été un énorme succès. Et donc tout le monde l'avait déjà contacté pour faire des projets de théâtre, de cinéma, etc. Mais il y a rien qui a été concrétisé. Et donc oui, si tu veux, essaye. Mais bon, j'y crois pas trop. Et puis quelques mois après, quand il a vu que comment ça fonctionnait, il m'a dit, c'est pas mal ton truc. Et c'est comme ça qu'j'ai eu les droits mondiaux en fait du spectacle. Et donc on a mis des franchises dans différents pays avec des comédiens pour jouer la pièce que j'avais. Que j'avais écrit.
Génial, je savais pas ça, super.
Alors il y a des endroits où ça a bien marché, d'autres moins, parce que c'est le problème, c'est quand même, enfin je pense qu'aussi ma personnalité, mon histoire par rapport à cette pièce a joué aussi dans la manière de le transmettre. Et si c'est juste un comédien, c'est peut-être un petit peu il manque peut-être un petit peu quelque chose par rapport au vrai message que j'ai envie de faire passer. Donc
et puis l'humour aussi en fonction des pays n'est pas le même.
Pays, et puis la situation, les relations entre les hommes et les femmes, etc. Enfin, donc, et puis il fallait laisser un peu de liberté comme au metteur en scène, et donc le metteur en scène parfois changeait un peu des textes, alors il enlevait des trucs qui étaient importants. Mais il faut savoir, enfin, moi je l'ai construit sur 10 années de pratique, d'avoir rencontré des milliers de couples, donc je sais pourquoi je le dis à ce moment-là et tout, ou parce que je fais attention aux objections qui vont arriver à ce moment-là, ou à ce que la manière dont les gens l'entendent. Et donc voilà, parce que j'arrive avec, ben, vous pensez ça, mais voilà pourquoi vous pensez ça, parce que tac, 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 tac. Donc, je réponds aux questions pendant le cheminement du show, quoi.
Oui, parce que du coup, tu as été coach de couple.
Et j'ai été un petit peu coach de couple, oui, pendant. Mais j'ai jamais fait de séance individuelle et tout, et je me suis vraiment axé sur la communication. J'avais pas envie de rentrer dans vraiment un coach individuel, mais j'ai fait pas mal de séminaires. Et alors, il y a eu un truc qui était très porteur pour moi, c'est que c'est les hasards de la vie, de nouveau, non, sur le cheminement de la rivière. Donc, on va revenir au kayak à un moment. Mais le cheminement de la rivière, c'est que le livre a été traduit en français très, très tard, parce qu'il y a eu un procès entre l'éditeur français et québécois qui avait mis la traduction en français. Donc, le livre est arrivé avec 2-3 ans de retard en France par rapport à tous les autres pays. Mais ce temps-là, en fait, c'est ce temps-là qui m'a permis d'être un petit peu connu, déjà, et de pouvoir. Et donc, j'ai pu, en fait, quand le livre est édité, j'ai pu mettre mon nom à la fin du livre, en disant, si vous voulez en plus, voilà, il y a des séminaires que j'organise et tout ça. Et donc, ça a été un coup de pub qui était fabuleux, parce que les gens qui lisaient le bouquin avaient, et donc, ça a été pratique pour moi de pouvoir commencer mes séminaires grâce à ce petit coup du destin-là.
C'est ça, il en faut. C'est ça, derrière chaque décalage de choses, il y a toujours une bonne chose, une bonne raison derrière.
Ouais. Mais c'est là le.
Non, vas-y, je t'en prie.
Et là, mais en fait, et pour ça, et ça, c'est un peu justement sur l'idée par rapport au au cheminement dans la vie, quand il y a une bonne, une mauvaise nouvelle et tout ça, il y a des trucs qui nous arrivent, on dit merde, c'est une tuile, ou bien tiens, c'est une bonne nouvelle, et ou un enfant qui rate un examen, on se dit est-ce que c'est bien, ou qui n'est pas accepté à son concours, est-ce que oh c'est triste, etc. Et donc c'est toujours, en fait, c'est pas tellement ce qui nous arrive qui pose un problème, c'est surtout la réaction qu'on a par rapport à ça et au stress que ça nous met parce qu'on se dit que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et il y a une histoire, moi, fait que j'aime bien, qu'on se la raconte beaucoup, souvent, quand on a des trucs. C'est l'histoire d'un fermier qui un jour découvre que son cheval a cassé la clôture et s'est enfui. Alors les voisins lui disent mauvaise nouvelle, et le fermier dit bonne ou mauvaise, difficile à dire. Le lendemain, en ouvrant ses volets, le fermier se constate que le cheval est revenu accompagné de 4 juments sauvages. Là, les voisins disent bonne nouvelle, et le fermier dit bonne ou mauvaise, difficile à dire. 2 jours plus tard, le fils du fermier veut monter une de ses juments, elle se cabre, il se casse la jambe. Là, les voisins disent « mauvaise nouvelle ». Et le fermier répond encore « bonne ou mauvaise, difficile à dire ». Et puis une semaine plus tard, des soldats se présentent à la ferme pour enrôler de force tous les jeunes de la région, mais voyant le fils blessé, ils passèrent leur chemin. Et là, les voisins disent « bonne nouvelle ». Et le fermier répond « bonne ou mauvaise, difficile à dire ». Et en fait, tu vois, cette histoire-là, pour moi, c'est de vraiment m'aider à conscientiser, à être conscient que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise nouvelle, en fait. C'est juste une nouvelle avec des avantages et des inconvénients qui peut, une mauvaise nouvelle peut amener une bonne peut amener une mauvaise. Et si on parvient justement à prendre un peu de distance par rapport à ça, de savoir si c'est bon ou pas, mais c'est juste le chemin de la vie, avec ses coups du sort et avec ses problèmes. Mais garder cette conscience que on va en reparler, mais c'est sur le courant de la rivière, justement. La rivière nous entraîne quelque part. Parfois, on est entraîné dans un chemin qu'on n'avait pas choisi, mais c'est pas pour ça qu'il est bon ou mauvais. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, en fait, dans notre vie. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi l'idée de, j'ai réfléchi un petit peu à ça sur le fait, il y a beaucoup de littérature qui parle de réussir sa vie, comment réussir sa vie, etc. Et il y a un truc qui me dérange, en fait, là-dedans. C'est que, sur lequel j'ai réfléchi, c'est qu'en fait, c'est bien d'avoir envie de réussir sa vie, mais ça voudrait dire qu'il y a aussi moyen de la rater.
On a eu cette discussion avec Franck Lobvet, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est un très grand. Justement, il disait la même chose dans le podcast en mode, partir du postulat que tu réussis ta vie, ça veut dire que tu peux rater ta vie.
Ouais. Et toi, j'aime bien l'idée, en fait, comme un arbre qui pousse, t'as les branches qui sont, qui poussent d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est droit, pas droit? Voilà. On a tous un peu nos blessures et nos fêlures et voilà, l'arbre pousse comme il pousse. Mais c'est enlever cette notion de bien ou de mal, je trouve que c'est important et c'est vrai que enfin, Franck est génial là-dedans aussi. Mais c'est comprendre en fait cette notion-là de c'est un peu apaisant aussi. Ça veut pas dire que on s'en fout de ce qui se passe. Enfin, c'est important quand même malgré tout d'avoir des rêves, d'avoir nos objectifs, d'avoir envie de mettre sa petite pierre à l'édifice, évidemment. Mais si on va le faire d'une manière ou d'une autre, et ça c'est déjà acquis avant qu'on le fasse.
Ouais, et puis après, enfin, tu vois, moi, je vois, je suis très, enfin, j'ai fait un burn-out il y a 3 ans, donc là, je me suis séparée cet été. Je l'ai pas vu venir, donc je me suis pris une énorme claque dans la figure. Mm-hmm. Mais en fait, justement, positif, en fait, c'est de se dire, ok, il est où l'horizon, ouais, où est-ce que j'ai envie d'aller, et justement, c'est se dire, ok, tu te prends des grosses claques dans la figure, mm-hmm. mais voilà, il y a du positif, et tu vois, d'ailleurs, ce que je disais à une copine hier, je dis, mais en fait, sans mon burn-out, aujourd'hui, je serais au fond du gouffre, en fait. Ouais. Donc, il y a du positif de chaque situation, en fait.
Ouais.
Et c'est se dire, dans chaque truc que tu vis, bah, en effet, il y a du positif, il y a du négatif. Et c'est, en tout cas, quand tu as des coups durs, bah, regarder la face positive ou la facette, parce que il y en a forcément.
Mm-hmm. Ouais, c'est toujours cette... Mais c'est pas évident. Hein. Et l'idée n'est pas non plus d'enfuir ou de nier la tristesse qu'on peut avoir.
Non, bien sûr.
Sinon, c'est de la vivre, etc. Et en même temps, voilà, c'est de process.
C'est justement, enfin, clairement, il y a le fameux processus du deuil. T'as le deuil de ta vie pro, le deuil d'une personne qui décède, le deuil d'une perte d'amitié, fin de la fin d'un couple. Et clairement, c'est hyper important d'accueillir chaque étape, ouais. Parce que, enfin, j'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet. C'est si tu n'acceptes pas les phases de tristesse, de colère, de tout ça, en fait, ouais. tu n'avances pas. Donc, il faut savoir accepter chaque étape, ouais. Mais que ça soit des émotions plutôt que des états qui restent.
Ouais. Les étapes à travers. Et c'est toute l'idée de mon barrage et de ma rivière, évidemment.
C'était la transition.
Transition magique.
Donc là, t'as sorti un nouveau spectacle que j'ai pas encore eu la chance, ouais, d'aller voir. Mm-hmm.
Et j'ai écrit, en fait, c'est, donc, tu vois, je t'avais dit, donc, il y a une vingtaine d'années, maintenant, j'ai écrit ce livre, La parabole du barrage, qui décrivait un peu la société dans laquelle on passait, le fait de voir, en fait, des gens en même temps optimistes et pessimistes par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde. Et on devait être obligé de choisir son camp. Tu vois, il y avait la France d'en haut, la France d'en bas, il y avait les puissants et les pauvres. Enfin, il y avait un peu ces dichotomies-là. Et je me demandais, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de choisir entre un avenir qui serait meilleur ou un avenir qui serait pire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir les deux ensemble? Et donc, c'est ça, comme ça que j'ai petit à petit développé cette image. Et les gens, en fait, ont été très marqués par ce, enfin, il n'y a pas énormément de gens qui ont lu ça, mais les gens qui ont lu ce bouquin étaient très marqués par ça. Et il me disait toujours, et à un moment donné, il était épuisé, et puis il me disait, il faudrait que tu le remettes au goût du jour, etc. Et je voyais que la société continuait à aller exactement dans le sens que je décrivais dans ce bouquin. Et donc, c'est ça que j'ai ressorti, en fait, un livre qui s'appelle La parabole du kayakiste, juste avant le confinement. Il est sorti juste avant. Et donc, ça a été compliqué de lancer le bouquin parce que tout était fermé pendant tous les mois, etc. Mais pendant, j'en parlais avec mon metteur en scène aussi, de mon dernier spectacle, mon troisième Mars et Vénus, et qui était l'ancien patron des Guignols de l'Info, Yves Le Roland, qui a dirigé les Guignols pendant 20 ans. Et il aimait beaucoup ce sujet-là, et on s'est dit, bon, on pourrait peut-être en faire un spectacle aussi. Et donc, j'ai construit ce nouveau spectacle du bonheur dans les épinards pour partager cette vision du monde. Alors que c'est beaucoup plus personnel que Mars et Vénus, tu rigoles moins, tu peux pas taper du coude le voisin en disant, ah, c'est tout toi, parce que on parle chacun de soi, en fait, là-dedans. Mais l'idée de cette parabole du kayakiste ou du barrage, en fait, c'est de comprendre que si on imagine que la vie est une expédition en kayak sur une rivière de montagne, tu vois, le kayak, c'est sympa, etc., c'est chouette, on s'amuse bien et tout, mais parfois c'est quand même un peu dangereux. Il y a des courants et des rapides, et quand on est pris dans les rapides, même l'aventure peut même parfois s'arrêter plus vite que prévu, hein, d'où le terme rapide, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est rapide. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, le monde est passé par les chutes du Niagara, hein, la cascade la plus haute que l'humanité ait jamais connue. Le résultat est assez effroyable à la sortie, et bien connu tout le monde. 80 millions de morts, un monde en ruine. Enfin, on va pas le décrire pendant des heures, tout le monde l'a en tête. Et je pense qu'on peut comprendre qu'à cette époque, en 45, que les survivants traumatisés par toutes ces années d'horreur qu'ils avaient vécues étaient un peu réticents à l'idée de reprendre leur kayak. Hein, et donc, à l'image des castors, ben, ils ont simplement décidé de construire un barrage sur la rivière. Parce que comme ça, ça leur permettrait désormais de vivre sur un grand lac protégé des courants et des rapides. Et là, ils s'imaginaient qu'ils seraient enfin heureux, puisqu'ils jouiraient de cette sécurité, qui serait enfin, qui était le bonheur absolu. Après avoir passé telle année d'incertitude, on peut imaginer que cette question de sécurité était vraiment la clé du bonheur. Et donc, c'est comme ça qu'à dès 45, on a commencé à construire ce barrage par les grands systèmes de solidarité collective, hein, comme la sécurité sociale, les caisses de retraite, l'assurance chômage, enfin, tout ce qu'on y a mis en place pendant les 30 glorieuses. Et chacun vivait dans des parcelles. On a donné des parcelles on a mis des barrières flottantes sur le lac. Alors évidemment, il y avait les grands ensembles, il y avait les plus belles parcelles pour les plus riches, et puis pour la bourgeoisie, et puis les pavillons pavillonnaires, et puis les grands ensembles collectifs, les HLM, etc., qu'on a construits dans les années 50. Mais même ces HLM étaient un énorme progrès par rapport aux anciens bidonvilles. Et puis aussi, la notion très importante, c'est que grâce à la croissance économique de l'époque, qui était très forte, puisqu'il y avait le baby boom, il y avait la reconstruction, il fallait tout reconstruire. Donc, il y avait aussi le pétrole qui était bon marché, il y avait l'apport des colonies, hein, où il y avait toutes les matières premières qui nous arrivaient quasi gratuitement. Donc, il y avait l'évolution technologique, les machines à laver qui arrivaient, le téléphone, enfin, tout ce progrès-là. Donc, il y avait une croissance économique énorme. Et grâce à ça, en fait, le niveau du lac était en train de monter. Et ce qui se passe, c'est que quand le niveau d'un lac monte, sa surface augmente, quand les verges sont en pente. Et donc, il y avait de plus en plus d'espace pour tout le monde sur ce lac. Et donc, en fait, l'objectif d'une vie s'est progressivement transformé en disant, ben, l'objectif de ma vie, c'est d'agrandir ma parcelle, de l'aménager du mieux possible avec, avec une machine à laver, avec, en allant des voyages, avec ma voiture, avec mon truc. Donc, en fait, on est passé par ce bonheur, par la consommation. Tout d'un coup, on est parti du besoin de sécurité qui est essentiel, de pouvoir avoir un toit et de pouvoir manger, d'être sûr d'être encore vivant demain. En fait, ce bonheur-là s'est transformé petit à petit en une idée d'un bonheur par la consommation. Et c'est sûr que après les privations qu'on a eues, etc., c'était génial. Vous voyez, quand un mari offre un aspirateur à sa femme dans les années 50, elle était ravie. Messieurs, essayez aujourd'hui, vous vous prenez l'aspirateur dans la gueule. Alors que les aspirateurs sont plus performants qu'avant. Donc, on n'y comprend rien.
Elles sont vraiment relous, ces femmes.
Rien, c'est vraiment leur... On ne sait plus quoi faire. Mais donc, on peut comprendre que en fait, le bonheur s'est construit. On a commencé à avoir cette idée du bonheur par la consommation parce qu'effectivement, ça apportait énormément de facilité et de joie par rapport à ce que cette génération-là avait connu. Mais pendant ce temps-là, en fait, il y a des jeunes qui sont nés après la guerre, qui n'ont pas connu tous les problèmes, qui n'ont pas été construits dans cette souffrance de la guerre, etc. Tous les jeunes sont arrivés du baby boom, on se sont dit, ben moi, ces parcelles, c'est bien, mais ça reste un enclos. Moi, je veux pouvoir aller nager partout. Je veux la liberté. Ça a été Woodstock, ça a été les hippies, ça a été la guerre au Vietnam, c'était tous ces trucs-là. Et c'est 68, évidemment, mais 68 en France. Et ce mouvement a été rejoint par tous les ouvriers qui, à un moment donné, sont dit, mais je veux bien ma parcelle, mais quand même, globalement, ma parcelle, c'est sympa, mais il y a quand même des grandes parcelles ailleurs. Moi, j'ai l'impression d'être un peu pigeon dans le système. Et donc, ça a commencé à créer des remous. Il y a eu des luttes de classe, etc., pour récupérer. En fait, le but d'une vie, c'était d'avoir la parcelle la plus grande possible. Et donc, tout ça a commencé à créer de l'agitation jusqu'en 73, où là, il y a eu le premier choc pétrolier, la première brèche dans le barrage. Et là où, tout d'un coup, en fait, le niveau du lac cesse de monter. Et depuis 73, en fait, toutes les crises successives n'ont fait qu'ouvrir de nouvelles brèches dans ce barrage. Et ce qui fait que le niveau du lac est en train de descendre maintenant. Et parce qu'il n'y a plus cette croissance économique, il n'y a plus cette idée d'une croissance à l'infini. En fait, on était vraiment dans l'idée avant de se dire, mais le niveau du lac ne va jamais cesser de monter et donc le lac pourra s'étendre jusqu'à l'infini pour le plus grand bonheur de tous. On était dans cette idée d'une croissance infinie et tout. Sauf que depuis des années, on voit bien que cette croissance infinie n'existe plus, et on le voit maintenant avec le réchauffement climatique, etc. On voit qu'on est sur une terre finie. Et le problème, c'est que sur le lac, le niveau du lac est en train de baisser parce que l'eau part plus vite du barrage qu'elle n'y entre. Et donc, il y a de plus en plus de monde avec la croissance démographique qu'on connaît. Il y a de plus en plus de monde sur une face qui se rétrécit. Et donc, comme à marée basse, il y a de plus en plus d'exclus maintenant qui se retrouvent dans la vase sans plus être dans leur, n'ont plus de barque, où la barque est complètement délabrée. Et pareil. De l'autre côté, il y a aussi des gens qui sont organisés pour continuer à prendre des espaces complètement démesurés sur le lac, avec des grandes fortunes immenses, etc., avec des parcelles qui sont totalement hors de la mesure. Et de l'autre côté, il y a plein d'exclus qui n'ont plus d'espace. Et c'est depuis 40 ans, on est dans cette société de plus en plus compétitive où on se chamaille sur le lac, avec l'extrême droite dit, tiens, on va en virer 2 millions d'étrangers, on les remet dehors, comme ça fera plus de place pour nous. Il y en a d'autres qui disent, mais on va prendre aux riches, comme ça nous donnera plus d'espace pour les autres. Donc, enfin, toute la logique politique depuis 40 ans, c'est de gérer l'espace disponible sur le lac. Sauf que personne ne voit, ou on ne s'occupe pas un peu, que le niveau du lac est en train de descendre. Et que quand il y aura plus d'eau sur le lac, qu'on ait des grandes ou des petites parcelles, on s'en fout, parce que de toute façon, il y aura plus d'eau sur le lac. Et donc, pour moi, on est un peu comme sur le Titanic. C'est les gouvernements, parfois, sont un peu comme le Titanic, où on est là, en train de se chamailler pour alimenter le buffet, plutôt que de s'occuper du trou dans la coque. Et donc, ça crée beaucoup d'incertitudes. Et en fait, moi, ce que je remarque, en fait, maintenant, c'est la bonne nouvelle quand même, c'est que l'eau qui s'échappe du barrage ne s'évapore pas. Elle continue simplement sa route dans la rivière en contrebas. Et aujourd'hui, plutôt que de se battre dans ce barrage qui devient de plus en plus vaseux, peut-être la solution, c'est de reprendre son kayak pour repartir dans la rivière. Mais ça nécessite en fait un changement d'état d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être dans la rivière ou être sur le lac? C'est ça la vraie question. Et justement, pour reprendre un peu mon parcours et dans l'idée, comment est-ce qu'on inverse et comment est-ce qu'on rejoint la rivière aujourd'hui, ce qui est à mon avis une absolue nécessité, c'est en fait de se rendre compte que la manière dont on a construit nos vies, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, en fait, moi, j'ai grandi dans l'idée que il fallait que j'ai un beau diplôme pour obtenir un emploi qui me permettrait de gagner l'argent dont j'aurais besoin pour être heureux. Parce que l'argent, le bonheur passait par la sécurité de la parcelle. Et donc, j'ai eu une parcelle assez rapidement. J'ai eu une belle parcelle. Je te dis, comme directeur général, compagnie aérienne, etc. C'était génial. Mais je me sentais pas heureux. Et ça m'interpellait, je dis, parce que je me sentais trahi par ces principes avec lesquels j'avais grandi. Mais donc, avant ça, juste je reviens 2 minutes. C'est que donc, première étape, en fait, c'était de construire sa parcelle. Deuxième étape, une fois qu'on a construit cette parcelle, on pouvait alors fonder une famille, hein, qui serait forcément heureuse puisqu'elle jouirait du confort et de la sécurité de la parcelle. Et puis, troisième et dernière étape, en fait, on pouvait enfin être fier de soi parce que si on parvenait à préserver cette parcelle tout au long de sa vie. En fait, cette construction-là, tu la connais, tu l'as peut-être reconnue, c'est la pyramide de Maslow. Hein, on a grandi dans cette idée-là. Donc, d'abord assurer ses biens matériels, sa sécurité matérielle. Une fois après ça, on peut s'occuper de ses relations. Et puis, si on réussit ça, on peut être fier de soi si on a réussi cette construction-là. Et je te dis, moi, j'ai grandi avec cette idée-là, et donc j'ai eu mon socle assez rapidement de ma parcelle sécurisée, etc. Mais j'étais pas heureux, et ça m'interpellait. Et au bout de 2 ans, il y a une conversation anodine avec l'ami d'une de mes sœurs qui m'a donné un premier début de réponse. En fait, Étienne avait 40 ans, il roulait en Porsche et venait de faire fortune en vendant de sa société. Un soir où on se retrouve tous les deux sur la terrasse, et là, je lui demande, mais maintenant que tu dois être heureux, maintenant que tu as gagné de l'argent, t'es heureux, parce que j'étais dans l'idée. Il m'a dit non. Et ça m'a surpris. Il me dit, pourquoi? Et il me dit, mais parce que je viens de divorcer, j'ai une petite fille de 2 ans, je ne la vois pas très souvent et elle me manque. Et en fait, en quelques mots, Étienne, là, m'a permis vraiment de prendre conscience que l'argent ne fait pas le bonheur. Et qu'en fait, il y a peut-être des relations plus importantes. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'est pas important, hein. Quand on dit ça, parfois, évidemment que c'est important, mais il n'est peut-être pas la source du vrai bonheur quand on sait de façon qu'on suscite 5 fois plus en Suisse qu'au Kenya. Hein? Bon, en même temps, passer son temps à compter l'argent des autres, on peut se dire que ça peut finir par devenir déprimant. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Mais en fait, il existe une valeur plus importante que la réussite financière pour être heureux. En fait, c'est la qualité de la relation qu'on a avec les autres, c'est l'argent qu'on partage en famille, c'est la chaleur d'une amitié profonde, c'est la joie d'avoir aidé quelqu'un en difficulté qui rend heureux bien plus qu'un compte en banque bien fourni. Ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Hein. Moi, je suis très content quand il y a du monde qui vient me voir au spectacle, etc. J'étais ravi d'avoir des millions de spectateurs qui sont venus me voir. Mais c'est pas le but, en fait, c'est ça l'idée. Et il y a une relation plus importante, c'est là. Et donc, si on prend la pyramide de Maslow, en fait, ben, le socle, le deuxième étage est plus grand que le premier. Et puis, lors de la faillite d'Erexel, ben, je me suis rendu compte que... il y avait peut-être une valeur plus importante que la réussite financière, que même la relation avec les autres pour être heureux, c'est la relation qu'on entretient avec soi. Et donc, en fait, la pyramide de Maslow, elle devrait être, en fait, c'est un triangle inversé. Le troisième étage est encore plus important que les 2 premiers étages. Et donc, mais en fait, mais la construction de la pyramide de Maslow, pour en être glorieuse, elle l'a tenue pour tout le monde, parce qu'on était dans cette idée-là, parce que la sécurité matérielle était garantie. Et le problème, c'est quand j'ai perdu mon emploi, quand la boîte est tombée en faillite, en fait, mon socle s'est écroulé et c'est toute ma pyramide qui s'est écroulée. Et en fait, j'ai perdu bien plus qu'un emploi. En fait, c'est toute ma vie qui s'écroulait. Parce que comme la moitié de mes relations provenait de mon environnement professionnel, je pouvais rayer d'un seul coup la moitié de mon carnet d'adresses. Et en ce qui concerne l'autre moitié que j'avais plus contacté et tout occupé que j'étais à agrandir ma parcelle, ben, eux, ils avaient changé de numéro. Et puis, je m'étais tellement identifié à mon poste de PDG que j'en étais venu à évaluer ma valeur personnelle proportionnelle à mon salaire. Et là, tout d'un coup, comme je ne gagnais plus rien, ben, à mes yeux, je ne valais plus rien. Et même pire, en fait, j'étais plus rien. Et c'est là où le changement que j'ai eu à ce moment-là, tu vois, quand j'ai commencé, effectivement, au début, j'ai essayé de retrouver un emploi pour retrouver une parcelle et reconstruire ma pyramide comme je l'avais toujours appris, hein, avec la sécurité d'abord, et puis je construis une famille après, et puis, mais ça marchait pas pour moi. Et en fait, j'étais en train de ramer à contre-courant sur ce lac où j'avais plus ma place et mon bonheur. Et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, dans mon cheminement personnel ou quoi, en fait, j'ai découvert cette rivière. En fait, je me suis dit, mais plutôt que de reconstruire ma pyramide à l'envers, à l'identique, je vais vouloir que je la reconstruise à l'endroit, en commençant par mon socle de la relation à moi. Et puis une fois que j'ai mon socle de la relation à moi, je trouve des relations qui vont bien, parce que pour être bien avec les autres, qu'est-ce qu'il faut ?
être bien avec soi-même.
Bien avec soi, donc c'est bien dans ce sens.
J'irais même plus loin. C'est même, enfin moi j'ai découvert, tu vois, suite à mon burn-out, qu'en fait je ne m'aimais pas.
Ouais, c'est ça.
Et vraiment, ça a été un électrochoc. Hein. J'avais une séance avec une espèce de magnétiseuse. Hein. C'était un truc un peu entre guillemets perché, mais j'ai vraiment pris conscience que je ne m'aimais pas. Et après, du coup, j'ai pris conscience que comme je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas. Ouais. Clairement, quand tu fais un burn-out, tu ne te respectes pas. Hein. Et comme je ne me respectais pas, et ben, qu'est-ce qui se passait? C'est que les autres ne me respectent pas non plus. Et donc, c'est vraiment cette spirale. Quand tu rentres dedans, et à partir du moment où tu t'aimes, ben, en fait, ça change tout.
Et c'est comme ça. Et en plus, et donc, le troisième étage, la sécurité et l'argent, vient une conséquence, mais n'est plus un but. Quand tu remets cette pyramide à l'endroit, en fait, de Maslow. Et pour moi, tout l'enjeu sociétal dans lequel on est aujourd'hui, en fait, c'est d'inverser cette pyramide de Maslow, de prendre le risque de repartir de soi. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qui a du sens, etc. D'avoir cette estime de soi qui nous permet d'aller vers les autres de manière positive et pas en train d'être demandé ou de vouloir prendre des autres, mais d'être. Alors, c'est pas le problème de cette relation à soi, c'est que parfois elle est très mal perçue parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je vais travailler sur moi parce que je vais m'occuper de moi, en disant, je vais m'occuper de moi parce que les autres me font chier et j'ai pas envie d'être avec les autres, ou je vais m'occuper de moi parce que, et ça, il y a un côté égoïste, un peu de repli sur soi. En fait, non, s'aimer soi, c'est justement, c'est d'être bien avec soi pour être bien avec les autres. C'est une démarche d'ouverture totale vers les autres, on s'est bien compris. Mais malheureusement, il y a plusieurs écoles là-dedans, et donc ce sujet est très sensible parce que il y a des gens qui le perçoivent pas très bien. Et effectivement, si c'est penser à soi pour être justement dans sa parcelle et garder sa parcelle et s'en foutre des autres, ça n'a aucun sens. Mais dans la rivière, partir de soi, ça a tout son sens. Parce que c'est là où on peut véritablement aider les autres, c'est parce qu'on est bien soi, on peut aider quelqu'un à passer un cap difficile dans sa vie, parce qu'on est en forme soi-même. Quelqu'un qui n'est pas fit ou qui n'est pas bien ne pourra jamais aider les autres. Donc
c'est ça, parce que quand on n'est pas bien, c'est notre zone d'ombre qui prend tout le pas sur notre zone de lumière. Donc en fait, même si on a envie, en fait, quand on n'est pas bien, on n'aide pas les autres. Et puis les gens qui nous aiment n'aiment pas ne pas nous voir bien. Donc du coup, c'est vraiment un cercle. Et c'est pas, tu vois, c'est marrant parce que hier j'ai interviewé Thomas Kojek, qui est une personne qui a monté un compte Insta sur des formations sur des tableaux Excel. Donc le type, il a créé une niche, il a créé un business de dingue, et on parlait justement de ça, de dire que c'est pas de l'égoïsme, en fait, c'est vraiment important de savoir se recentrer sur toi pour pouvoir être bien, en fait.
Ouais. Pour être bien
dans la société. Aujourd'hui, et pour le coup, je pense que les hommes, pour le coup, la part masculine est un peu plus forte sur ce sujet-là que la part féminine. Les femmes, on a beaucoup plus tendance à faire passer les enfants, son mari, ses amis, avant de se faire passer soi d'abord.
Ouais. Et c'est là où c'est un vrai équilibre aujourd'hui, et pour ça que ça rejoint ce thème de la rivière, rejoint le masculin et le féminin, parce que c'est un vrai équilibre aujourd'hui. En fait, on a des deux pagaies dans la rivière. Il y a le masculin, effectivement, pour savoir, il faut qu'on soit complètement déterminé pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, et en même temps, il faut être capable de lâcher prise à chaque instant pour être parti dans une direction qu'on n'avait pas choisie. Et donc, c'est ce subtil dosage-là, tu vois, entre ce masculin et ce féminin, entre ces deux pagaies, masculine et féminine, sur notre kayak, par rapport à l'aventure dans laquelle on est, où parfois on peut être entraîné et puis parfois on va découvrir des paysages magnifiques. Parce que la rivière n'est pas que danger, en fait, et la rivière est aussi une magnifique surprise. Et plus on est aguerri soi-même, plus on a du plaisir à être dans la rivière. Mais au début, c'est sûr que c'est flippant, hein, parce qu'on prend l'eau, on boit des tasses, c'est pas évident, et on est encore avec plein de gens. La logique du barrage est encore dominante aujourd'hui dans la société, dans la culture. Et donc, quelqu'un qui prend son cahier pour partir, on se dit, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Et même en tant que parent, on est encore avec nos enfants, on va leur dire, on a un enfant qui a un rêve ou quelque chose, on lui dit, mais pense d'abord à payer ton loyer avant de suivre ton rêve. Et on voit que les jeunes, enfin, les jeunes sont de plus en plus déjà dans cette logique de la rivière. On est vraiment dans une nouvelle génération maintenant, parce que le contrat qui était « je vous assure la sécurité du barrage, vous restez calmement dans le barrage et je vous assure la sécurité » ne tient plus. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui est certaine de ne pas fermer. Et puis, le monde évolue tellement vite, et on voit le changement climatique, etc. Enfin, on voit bien que on ne peut plus avoir de certitudes comme on les avait dans les années 50 ou 60. Et continuer à vivre dans cet esprit-là est de plus en plus dangereux, parce que le niveau du lac est en train de descendre. Alors, Il y en a qui continuent à se battre sur le lac parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre, mais ils sont en train de s'épuiser à ramer à contre-courant parce que quand le niveau d'un lac, quand il y a des brèches, ben le courant nous entraîne vers la rivière automatiquement. Et donc, il y en a qui s'accrochent aux bouées, qui s'accrochent comme ils peuvent. Et alors, on part en burn-out ou on fait plein de trucs. Et puis, à un moment donné, ben, c'est lâcher prise pour, et accepter. Mais la bonne nouvelle et l'image que j'ai envie de partager, en fait, c'est aux gens qui doutent ou qui ont peur ou quoi, parfois, c'est de se dire, ben, justement, ayez confiance, la rivière est là. Le barrage, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Au-delà du barrage, il y a toute une vie qui se construit autrement. Et c'est là où il faut accepter justement ces incertitudes-là, accepter les coups durs, accepter que ça puisse pas toujours se passer comme on l'avait imaginé. Mais aussi, quand on a ce socle de la relation à soi qui est suffisamment solide, ben on traverse. Et puis il y a le destin, comme je disais, les coups du sort, du hasard, du destin, de la vie, etc., qui nous amène à faire des rencontres qu'on n'imaginait pas pouvoir faire. Donc c'est ça qui est assez passionnant, en fait. Et moi, je me rends compte, en fait, que la vie, ben, c'est la rivière. Le barrage, ça a été une utopie, en fait. Les Trente Glorieuses, ce n'est pas la vraie vie. Ça a été une période peut-être joyeuse et tout, mais on voit que aujourd'hui, en fait, pour moi, ce monde des Trente Glorieuses, on a cru que le barrage, la génération des Trente Glorieuses avait cru pouvoir dompter la nature, qu'on allait dompter la médecine, parce que tu vois, avec les progrès de la médecine, avec les progrès de la chimie, etc., on disait, mais maintenant, on peut faire n'importe quoi, on peut être obèse, et puis on a une pilule qui va nous faire maigrir, et puis on met n'importe quel engrais, et puis ça va pousser quoi qu'il arrive, et puis, enfin, tout va... On va avoir de plus en plus de bagnoles, on va avoir de plus en plus de cils, sans conséquence, quoi. On va vivre de plus en plus vieux, et puis, donc, on ne va plus mourir, quoi. À la limite, vraiment, ce barrage, c'était cette idée qu'on est maintenant à l'abri et qu'on peut vivre sur notre barque, à être là. Mais malheureusement, on se rend compte que quand on fait ça, on tourne en rond comme un poisson dans son bocal. À un moment donné, il nous manque quelque chose. C'est bien d'avoir la parcelle la plus grande, mais à un moment donné, quoi qu'il arrive, si on est dans ces pesées-là, il y aura toujours moyen de trouver quelqu'un de plus riche, de plus beau, de plus ci, de plus là que nous. Donc, être dans cette comparaison qu'on veut toujours plus, on finit par passer sa vie à ne jamais avoir assez, en fait, à force d'en avoir toujours plus. Et l'idée pour moi de la vraie croissance aujourd'hui, c'est plutôt la croissance dans la rivière ou une croissance intérieure, parce qu'on a envie de croître. Mais c'est plus une croissance extérieure d'accumulation de biens, c'est simplement une croissance intérieure de certitude qu'on peut passer les étapes et de partir à la découverte de ce que la vie peut nous proposer dans la rivière.
Et du coup, ce spectacle, à partir de quand et quand est-ce qu'on peut le voir?
Et on peut le voir, pour le moment, on va le voir à Avignon. Non, pardon, à Avignon, je l'ai fait à Avignon cet été. Mais on va le voir à Lyon, jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, c'est le théâtre à Lyon s'appelle, on mettra les liens en dessous, j'ai oublié le nom du théâtre. Le théâtre à Lyon, donc je vais jouer quelques fois là-bas, et puis je vais partir en tournée, mais je sais pas encore exactement, donc on va mettre toutes les dates. Et puis il y a le livre, La parabole du kayakiste, pour ceux qui sont, le thème intéresse, il y a mon livre, qui est aux éditions Jouvence, La parabole du kayakiste, pour comprendre, justement, voilà les clés. Tu parlais de la relation à soi, tu vois, peut-être qu'on peut en parler 2 minutes, cette relation à soi, pour moi, c'est vraiment un point central. Et c'est vrai qu'on peut tous se faire le test, on dit, bah oui, je me aime évidemment, etc. Mais on peut faire un petit test très simple, qui est de se mettre devant son miroir le matin, ou l'après-midi quand on veut d'ailleurs, mais c'est nous et nous. Et puis on se regarde vraiment, on prononce son prénom et on dit « je t'aime ». Et là, immédiatement, on voit les réactions qu'on va avoir, la petite voix intérieure qui est en nous, qui va nous dire, mais t'es fou, t'as vu ta gueule et tout ça, moi, je te connais, je sais tout ce que t'as déjà foré dans ta vie, pourquoi tu racontes n'importe quoi. En fait, donc, on a tous cette petite voix intérieure qui nous sabote. Et donc, en fait, cette petite voix-là fait vraiment beaucoup plus des dégâts qu'on ne le croit. Et pourquoi? Parce que si on imagine qu'en fait, que la relation à toi, une relation bienveillante et amicale envers soi, en fait, c'est ça, vers ce à quoi on veut tendre, c'est un peu comme un réservoir à remplir. Et cette relation à soi, c'est un bloc, un réservoir. Et normalement, en fait, ce réservoir se remplit tout naturellement grâce à la source intérieure de créativité et de confiance dans la vie avec laquelle on vient au monde. Il suffit de voir un bébé. Au début, un bébé, ben, il doute pas de lui, hein. Il n'imagine pas qu'il va être privé de biberon s'il n'est pas sage, ou bien qu'il va pas rester assis en disant « je parviendrai jamais à marcher, c'est pas la peine que j'essaye », tu vois. Non. Il est plein de confiance dans la vie, il a aucun doute. Et malheureusement, en fait, tous les dénigrements et toutes les épreuves qu'on subit depuis qu'on est tout petit, parce qu'il y a des gens qui vont nous dire, t'es pas bien, t'es paresseux, t'es ci, t'es là, etc. à l'école et tout. Tous ces dénigrements vont finir par étouffer notre... C'est comme si notre source intérieure était en train de se boucher. Et quand la source intérieure ne coule plus, en fait, il ne reste plus qu'un seul moyen de remplir notre réservoir, c'est par l'extérieur, en se mettant à quémander par tous les moyens possibles l'amour ou l'admiration d'autrui. Et tu vois, quand je me vantais d'être PDG de ma compagnie aérienne ou quoi, en fait, j'essayais de remplir mon réservoir de l'extérieur parce que je cherchais auprès des autres la reconnaissance que j'étais incapable de me donner à moi-même.
C'est exactement ça.
Et c'est comme ça sur les réseaux sociaux et tout. Tu vois, maintenant, en fait, il y a des gens qui essayent de remplir le réservoir d'estime de soi de l'extérieur parce qu'ils n'ont pas cette certitude intérieure. Et le problème quand on fait ça, c'est que toi, la petite voix intérieure est toujours là, elle reprend immédiatement le dessus. Alors, ça soulage un moment en disant, mais oui, si les autres m'aiment, c'est que je suis un peu aimable, donc ça fait du bien, un peu, 5 minutes. Mais le problème, c'est que notre petite voix intérieure revient tout de suite. Mais moi, je te connais. Non, non, mais, hey, n'oublie pas qui tu es. Et donc, en fait, cette petite voix intérieure, c'est comme si elle avait fait des trous dans le fond du réservoir. Et donc, en fait, ça n'arrête pas.
Après, cette voix intérieure, elle est à la fois, ça peut être à la fois le loup blanc et le loup noir, en fait.
Il y a les deux.
À la fois, en effet, ce truc de non, mais t'as vu, et à la fois, ça peut être justement, rappelle-toi qui tu es. Et moi, c'est vrai, après, c'est plus ma philosophie de vie de voir toujours le positif avant de voir le négatif. Ouais. Mais t'as aussi cette petite, parce que tu vois, la baseline du podcast, c'est l'invitation à écouter ta petite voix. Mm-hmm. Mais en effet, c'est le loup blanc, c'est de dire non, mais regarde tout ce que t'as fait, regarde comme t'es quelqu'un d'exceptionnel. On est tous quelqu'un d'exceptionnel. Mm-hmm. Il faut se le rappeler.
Ouais. Et c'est ça, ce travail-là à faire, c'est de changer, de transformer cette petite voix-là, justement, d'enlever tout ce qu'on a pu entendre d'horreur, de ce que nos parents ont pu nous dire, de ce que nos enseignants ont pu nous dire, etc., et de se construire une voix pour avoir un rapport amical et bienveillant envers soi. Et c'est là où la source intérieure, en fait, peut renaître. En fait, c'est quand on se donne à soi, en fait, cet amour-là, on n'a plus besoin d'aller chercher chez les autres. Et c'est là où ça change complètement le rapport aux autres, justement, c'est que on n'est plus là en train d'essayer d'avoir l'admiration de l'autre. Quand quelqu'un dit qu'il a trop d'ego, non, en fait, on ne peut pas s'aimer trop. Quelqu'un qui a trop d'ego, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas assez et qui a besoin de remplir son réservoir de l'extérieur par l'approbation des autres et qui va la chercher par tous les moyens possibles. Une fois qu'on est bien avec soi, une fois que tu as ta petite voix, ton loup blanc qui est là, qui est présente, ben c'est facile, justement. Enfin, tu n'as plus besoin de ce renforcement des autres. Et c'est ça tout le secret aujourd'hui, c'est d'avoir cette force intérieure, de remplacer la sécurité extérieure par la force intérieure qu'on peut avoir en soi. Mais il faut effectivement aller le chercher, il faut un peu balayer devant sa porte, il faut enlever quelques doutes, il faut faire ce truc. Mais c'est essentiel aujourd'hui.
Ouais. C'est découvrir quelle est sa part d'ombre, l'accepter et être à sa place et du coup avancer quoi.
Et de là, tu trouves les relations. Tu vois, et l'argent que tu fais, et l'argent et le projet que tu vas avoir découlent alors de cette construction personnelle. Tu vois, quand tu vas chez un, t'as envie d'aller chez un restaurateur, un cuisinier qui est passionné par ce qu'il fait, quelqu'un qui est là parce qu'il veut juste prendre le plus d'argent possible et te servir n'importe quoi, t'es pas bien. Donc, c'est ça, en fait, le métier part, ton activité, etc. Il faut que ça ait du sens, il faut que ça parte de ce que tu as envie de faire. Et donc, on parle de la question du sens dans les métiers, tout ça, ça devient essentiel aujourd'hui. Parce que justement, dans le cadre de cette pyramide à l'endroit, mais c'est la base, c'est notre socle. Et de nouveau, c'est pas pour ça que l'argent n'est pas important. Mais c'est comme ça, justement, la meilleure manière aujourd'hui d'en gagner ou d'avoir la certitude d'en gagner, c'est de prendre le risque de partir de soi. Parce que sur le lac, si on ne pense qu'à l'argent et à sa parcelle, le lac est en train de baisser. Alors, ça peut garder, on peut peut-être, je sais pas combien de temps ça va durer, hein. Ça peut encore durer 10 ans, 15 ans. Ça dépend de chacun, des situations de chacun. Mais on voit que le monde évolue plus vite qu'on ne croit. Donc, je resterai prudent dans cette idée de me dire que ma retraite est garantie et que y a rien qui va se passer. Je pense que c'est dangereux de continuer à raisonner de cette manière-là.
Tu vois, d'ailleurs, suite à mon burn-out, je me suis dit, bon, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, et tout le monde m'a dit, fais un bilan de compétences, mais en fait, les bilans de compétences traditionnels, c'est vraiment un truc où on t'était dans une case, on te remet dans une case. Mm-hmm. Et du coup, moi, j'ai créé justement une méthode qui permet aux personnes de partir de leur why, en fait, de trouver leur why, mm-hmm. et ensuite voir quelle est leur zone de génie, et ensuite voir quel est le métier, et après, quel est l'environnement. Parce qu'en fait, clairement, le sens, si tu sais pas quelle est ta raison d'être, tu sais pas ce qui apporte du sens dans ta vie, et en même temps, tu peux pas savoir qu'est-ce qui apporte du sens dans ta vie si tu ne te connais pas. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est vraiment d'aider les gens à comprendre qui ils sont, apprendre à s'aimer, et puis après, savoir quel est, qu'est-ce qui apporte du sens dans leur vie pour trouver après le travail. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois un nombre de personnes qui me disent, non, mais moi, j'ai déjà fait un bilan de compétences traditionnelles, machin, mais je dis oui, mais c'est normal, vous avez exploré que la partie pro, mais si vous savez pas qui vous êtes et si vous savez pas ce qui apporte du sens dans votre vie, bah, vous allez continuer dans cette roue de hamster et vous allez encore vous faire éjecter et ça va encore faire mal. Et vraiment, et là, par rapport justement à ce que tu disais sur le sens, c'est que, clairement, les scientifiques ont montré que plus t'as des crises existentielles dans la société, plus cette quête de sens est forte. Et clairement, on le voit aujourd'hui. Les gens sont vraiment se replient sur eux en se disant, mais ok, pourquoi j'existe, quoi.
Et tu vois, c'est pas tellement dans ce qu'on fait, c'est comme tu dis, le pourquoi tu le fais, etc. C'est ça que ça change tout dans la manière et dans la réussite qu'on peut avoir, justement. Pour revenir à John Gray, quand j'ai été le voir, en fait, il y avait un Allemand, un Danois et moi. En étranger, il y avait une vingtaine d'Américains qui ont commencé leur truc, et puis il y avait l'Allemand et le Danois et moi. Et l'Allemand a eu la stratégie qu'il a prise. Lui, ce qu'il a vu, c'est les dollars. Il s'est dit, le bouquin est un succès incroyable. Ça va être facile. On organise, je mets la cassette de John Gray. Je forme n'importe qui. Je forme 20 personnes. Je dis à 20 personnes, je mets 20 facilitateurs dans des salles, je fais une pub d'enfer, tout le monde va venir écouter John Gray et moi je vais gagner beaucoup d'argent avec mon truc. Il n'en avait rien à foutre du fond, en fait. Moi j'ai dit, j'ai pas envie d'être là à présenter un Américain qui est sur une cassette d'idiot, enfin ça n'a aucun sens. Moi c'est quelque chose que j'ai envie de partager, je m'inspire de lui et j'en suis très reconnaissant, mais j'ai des choses à dire par rapport à ça moi-même. Donc j'ai commencé petit dans un hôtel avec ça, mais j'ai fait un séminaire. Parfois je faisais 600 km, il y avait 3 personnes dans la salle, et puis j'ai vécu toutes ces galères là et tout, mais c'était pas grave. Enfin, c'était pas une question de savoir que si j'allais gagner de l'argent ou pas, c'était l'envie de partager ça. Et puis le hasard, le destin fait que le bouquin est publié plus tard en France. Et puis il y a eu aussi un autre événement qui était assez dingue. C'est qu'au bout de 3 ans, il y a une journaliste envoyée spéciale qui m'appelle en disant, on fait un reportage sur le succès de John Gray, le business de John Gray aux États-Unis, et donc on veut vous interviewer. Mais la partie, évidemment, interview spéciale, parfois c'est un peu sensation, trouver les scandales, etc. Et donc, c'est là-dedans qu'ils étaient partis. Et donc, je me dis, bon, là, c'est fini, là, c'est réglé, mon truc, je vais pouvoir faire autre chose le lendemain parce que je vais me faire descendre, arriver là-dedans, qu'est-ce que c'est, vous êtes formateur, vous êtes qui, vous êtes là, etc., pourquoi vous faites ça, etc., enfin bon. Et heureusement, en fait, cette journaliste a contacté l'hôtel dans lequel j'étais, et le directeur de l'hôtel, en fait, m'avait donné une salle gratuitement, parce qu'il avait adoré, il était venu la première fois que j'avais fait ça, il avait trouvé ça sympa avec sa femme, ils avaient adoré tous les deux. Et donc, il m'avait dit, tiens, j'ai des hôtels, les salles sont vides à week-end à Paris, donc viens dans mon hôtel, il n'y a pas de problème. Et donc, ça m'a beaucoup aidé à développer mes séminaires, parce que j'avais pas de frais à payer par rapport à ça et tout ça, donc c'était important pour moi. Et donc, la femme du patron, à la journaliste, et lui explique qu'en fait non, c'est pas du tout la démarche que vous pensez, peut aller tout à fait différent, enfin il le fait vraiment dans une démarche sincère, etc. Donc heureusement, ça a déjà un peu amadoué la journaliste, et puis on s'est rencontrés, puis elle a vraiment saisi la sincérité de ma démarche, et elle s'est battue contre ses rédacteurs en chef pour dire non, je vais pas faire un truc, elle a été honnête en fait, et plutôt que de faire un reportage sur John Gray, elle a fait un reportage sur mes ateliers, en allant filmer des couples avant, pendant et après les ateliers. Elle est partie de 13 minutes et on est parti à 52 minutes et elle a tenu bon en disant non, moi, voilà ce que j'ai vu, c'est ça que je vais montrer. Et donc, vous n'allez pas me influencer mon jugement par rapport au sujet que vous vouliez faire, scandale, etc., quoi. Et donc, ça a été magnifique. Mais heureusement, je suis tombé sur une journaliste qui était intègre. Donc, c'était génial. Mais surtout aussi, elle a perçu aussi la sincérité. Et donc, c'est pour ça que le moi est tellement important. Et la réussite que j'ai pu avoir par rapport à Mars et Vénus, c'est aussi parce qu'il y avait cette démarche sincère et qui venait d'une véritable raison. Si jamais t'es dit, tiens, c'est un truc qui marche, donc je vais en faire, mais j'en ai rien à foutre, ça n'aurait jamais marché. J'aurais pas eu les rencontres que j'aurais pu avoir, etc. Et donc l'idée, c'est...
Ça aurait peut-être été un feu de paille, mais ça n'aurait pas duré sur la durée.
Ça n'aurait pas duré. Enfin, et puis c'était pas ce que je voulais faire, etc. Mais donc c'est là où ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que pour aider les gens à prendre conscience que parfois ça vaut le coup de prendre le risque d'aller vers ce qui nous appelle, je vais dire. Sans tenir compte, sans avoir toutes les réponses, sans savoir exactement où on va. C'est simplement, voilà, c'est ça maintenant. Je pense que c'est vers là que j'ai envie. J'ai peut-être pas, je sais pas pourquoi, je sais pas comment et tout, mais j'y vais. Et puis on voit. Et le truc, c'est de rester attentif dans la rivière aussi. Ben, c'est d'être attentif justement à tous les signes qui peuvent y avoir, qui peuvent nous aider à aller, justement, tiens, il y a ça, tiens, il y a ce podcast, tiens, il y a cette femme-là, tiens, il y a cette rencontre-là que je peux faire, tiens, il faudrait que je parle à telle ou telle personne, enfin, parce qu'on est animé par ce qu'on fait, mais c'est ça qui nous donne l'énergie d'aller et de le proposer, d'avancer et de trouver notre voie.
Et d'ailleurs, comment tu l'écoutes, ton intuition?
Je médite, et puis aussi je cours. Où je fais du vélo, mais c'est vraiment en fait dans ces moments-là où il y a la créativité qui vient et qui est assez sympa. Mes idées dans des bouquins et tout ça, c'est plutôt vraiment en courant. C'est une grosse activité pour moi. Et puis aussi en écoutant des trucs. Mais la méditation est importante quand même. Donc d'avoir des moments pour soi, quoi, justement à ne rien faire. Donc de pas être pris tout le temps dans l'engrenage, il faut faire, parce que ça, c'est parfois, ça peut être un signe aussi qu'on a peur justement de se retrouver avec soi. Donc c'est, mais en même temps, c'est pas non plus de se replier sur soi et d'être dépressif et de rester dans son fauteuil et rien foutre. Donc c'est là où la frontière est parfois fine.
Comment tu célèbres tes réussites?
Comment je célèbre mes réussites? J'aime bien le yes avec le point serré, yes. Et puis c'est aussi le célébrer avec ce que j'aime. Alors justement, ben, pour être tout à fait honnête et transparent par rapport à toi et par rapport à et justement dans la rivière, etc. Et il sait que en fait que ma femme est partie il y a 3 ans. Après 27 ans de mariage, j'ai pas très bien compris sa crise de la cinquantaine, vouloir se réaliser, etc. Je sais pas. Et donc, j'ai pas compris. C'était un gros coup justement par rapport à Mars et Vénus et par rapport à tout ça. Donc ça, j'ai été dans beaucoup de questionnements par rapport à pourquoi j'avais fait ça, qu'est-ce que ça réveillait en moi et tout. Et puis j'imaginais vraiment continuer ma vie. On s'entendait bien, on avait une bonne complicité et tout. Et donc ça a été très surprenant pour moi, mais ça a été un coup parce que notamment c'était non seulement le professionnel, mais aussi personnel, enfin personnel, mais aussi j'avais tout mis mes yeux dans le même panier, donc j'étais sans filet dans la rivière avec ça. Et donc je me suis demandé justement ma légitimité par rapport au fait de continuer à parler de ça et tout. Et donc j'ai eu une période assez un petit peu compliquée. Mais c'est de nouveau repartir de soi, de qu'est-ce qui est important, du pourquoi on le fait et tout ça. Et puis voilà, le spectacle justement sur la rivière, c'est vraiment, c'est tout le sens sur le partager les moments aussi plus difficiles de la vie. Et donc c'est la vie n'est certainement pas un long fleuve tranquille. Enfin, l'idée, c'est pas de vendre du rêve en disant, vous voyez, prenez votre kayak et puis ça va être magnifique, hein. Mais c'est juste, on n'a pas le choix aujourd'hui de prendre son kayak, à mon avis, parce que le niveau du lac, le lac est en train de se vider. Et donc on est bien obligé de se retrouver dans la rivière, et pour être dans la rivière, ou bien on se cogne contre un rocher, ou bien on s'aguerrit un petit peu à la vie aussi.
Soit on est acteur, ouais, quoi.
Soit on est acteur, mais en même temps avec beaucoup de bienveillance, parfois pour des moments plus difficiles où il faut qu'on se pose et que voilà, on doit traverser aussi les phases de deuil, etc. Quand il y a un licenciement, une séparation, un burn-out, un deuil, etc. Donc tous ces moments-là, une maladie aussi et tout. Donc c'est en même temps, c'est accepter ce temps-là de de moins, un peu d'être en doute aussi, mais de ne pas y rester, de ne pas rester coincé dedans pour ne pas se transformer en victime, et donc et de pouvoir remonter et de pouvoir repartir avec avec l'humilité aussi de dire voilà on n'est pas parfait et c'est pas et donc voilà et donc et maintenant justement mais je alors et en plus c'est chouette parce que la vie m'a ramené avec une nouvelle chérie depuis un an. Et donc, c'est un moment très, très chouette. Et en même temps, c'est pas ce qu'on avait vécu non plus. C'est pas ce qu'on avait imaginé tous les deux pour notre vie. Et en même temps, c'est très sympa à vivre. Donc, ça secoue un peu des certitudes, justement, sur plein de trucs. Mais en même temps, ça ouvre plein de nouvelles portes. Donc, voilà. Bien ou mauvais, bien ou mal, je sais pas si c'est bien ou mal. C'est juste la vie qui m'a amené ça.
Ouais, c'est ça, moi clairement, je me suis mariée il y a 3 ans, ça fait 17 ans qu'on était ensemble. Clairement, j'imaginais finir ma vie avec lui. Ouais. Et donc, du coup, c'est juste en effet, t'as ton équilibre de, juste en effet, t'as ta façon de voir le monde qui change. Mm-hmm. Et bon, il faut se relever de l'hypercute. Mais voilà, c'est juste se dire en effet, voilà, ta vision du monde était d'une certaine façon sur certaines choses. C'est se dire que finalement, bah voilà, il y a une autre façon de voir le monde et que je suis pas la première, je suis pas la dernière, et de se dire, bah voilà, je suis forte parce que je sais qui je suis, je suis pas une victime et en voiture et Simone sur les cahiers.
Et ce qui est drôle, je me rends compte, en fait, ce processus-là aussi, c'est que le plus difficile pour moi, ça a été, en fait, de faire le deuil d'un futur que j'imaginais. Sans même savoir si ce futur-là aurait existé ou non. Et donc c'est là où parfois c'est important peut-être d'être conscient de ça, c'est de ne pas commencer à idéaliser un futur dont on n'a aucune idée, et plutôt d'être dans le futur réaliste de ce qu'on a envie de créer par rapport à la situation dans laquelle on est, plutôt que de continuer à vivre dans un futur idéalisé qui peut-être ne se serait jamais passé, parce qu'il y aurait eu un événement, on aurait pu être malade l'un ou l'autre, avoir un accident ou un enfant ou un. Enfin, il y a tellement d'aléas dans la vie qui fait que rester sur cette image d'épinal d'un futur, d'un bonheur merveilleux avec un être cher, enfin, c'est faisable. Hein. Je suis sûr qu'il y en a qui peuvent le vivre, mais c'est bien de le vivre si on a la possibilité de le vivre. Mais continuer à vivre dans le regret de ne pas le vivre. Si on n'a pas la possibilité, je pense que c'est peut-être un petit peu.
De toute façon, il ne faut pas avoir de regrets. Parce que tu vis dans le regret. Enfin, tu vois, moi, d'ailleurs, c'est un truc qui me tient. C'est quand je vois un certain nombre d'amis qui se sont fait ronger par la colère, par la tristesse, et tu dis, maintenant, mais en fait, alors elles ont peut-être pas le choix, tu vois, mais tu dis, mais en fait, t'as le choix de te dire, t'es rongé par la colère, par la tristesse et quoi, ou tu te dis, bah, la vie, elle continue, et ça, je pense qu'on a, se connaître, ça aide clairement à ça.
Et ce choix-là, et c'est pour ça que de nouveau repartir de son socle et de remettre la pyramide à l'endroit est essentiel, parce que, si tu restes avec le soi qui dit, moi, je m'aimerai quand j'aurai une famille idéale, je m'aimerai quand j'aurai mon bout de l'idéal, je m'aimerai quand tu auras ça et ça qui va, tu n'auras jamais tous les éléments en compte. Et puis, de toute façon, la petite voix intérieure qui nous sabote, de toute façon, elle est enregistrée depuis l'enfance. C'est pas les résultats qu'on va voir aujourd'hui qui vont la faire changer d'avis, parce qu'elle n'a pas d'avis. C'est juste un petit disque qui tourne en ritournelle, qui est enregistré quand on avait quelques années. Donc, vouloir imaginer qu'elle peut changer un jour parce que on a d'autres résultats, parce qu'on a des bons résultats entre guillemets, c'est tout à fait utopique. Et c'est là où ça devient frustrant. En fait, cette petite voix, on peut la changer même quand rien ne va bien dans notre vie, parce que c'est juste un travail justement à devenir bienveillant envers soi et à la changer en cette petite voix de loup blanc.
C'est une bienveillance. Ouais. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi?
En fait, ça vient de très loin, parce que ma mère voulait absolument un garçon. C'est pour ça aussi Mars et Vénus, ça rejoint tout ça justement là-dedans. Elle avait eu trois filles avant. Et mon père, ça allait déjà pas très bien avec ma mère, je pense. Et je sais qu'un jour, elle m'a dit en fait que je suis le résultat de la dernière fois où ils ont fait l'amour en fait ensemble. Et elle s'est dit en fait un jour, elle a pris, elle se voyait bien qu'il était plus tellement là. Et ben elle a dit bon, c'est le bon moment et tout. Après, je fais encore un petit essai pour avoir mon gosse. Donc c'est pas pour retrouver mon mari ou quoi, c'est juste pour une dernière tentative pour avoir mon garçon. Et donc en fait, j'ai toujours l'impression d'avoir été d'être né par un trou de souris, quoi. Normalement, je devrais pas être là, un peu dans l'idée. Donc, pourquoi pas moi? C'est juste, je suis arrivé là, voilà, je suis là, c'est peut-être qu'il y a une raison, parce que les chances étaient quand même assez faibles que j'y sois, et donc voilà. Donc, j'essaie, en fait, cette confiance-là, et c'était sûrement renforcé par ma mère, qui était tellement contente d'avoir un garçon. Alors, c'était parfois intéressant, je me sentais aimé, mais en même temps, je me sentais aimé comme garçon, mais pas comme moi. Elle était contente d'avoir un fils pour remplir son réservoir de l'extérieur. Elle n'était pas spécialement heureuse d'avoir moi comme enfant. Ouais, c'est comme ça parfois que je me suis un peu questionné par rapport à ça. Mais donc toi, c'est c'est là aussi où c'est un truc qui était intéressant pour moi par rapport toi à cette vision là, c'est que je m'étais toujours dit, en fait, moi, j'ai cette confiance-là que quand il y a un obstacle, ben, je vais le franchir d'une manière ou d'une autre. Hein, quand il y a un mur, il y a un mur devant moi, ben, je vais trouver le petit trou de souris ou je vais trouver les petits trucs qui me permettent de passer au-dessus ou bien, enfin, j'en sais rien, je sais pas comment, pourquoi, mais la vie m'a fait suffisamment maintenant, m'a donné des preuves que j'étais capable de traverser ces trucs-là. Et donc, j'étais avec cette image assez positive que j'étais capable de traverser les murs. Et je me suis rendu compte maintenant avec le dernier mur que je me suis pris dans la gueule, avec la séparation, qu'en fait, je n'avais peut-être que pour que cette identité de moi qui passe les murs, j'ai besoin d'avoir des murs. Et donc, je me construisais aussi mes propres murs pour pouvoir les passer. Et je me suis, dans l'évolution personnelle que j'ai maintenant, je me dis, bon, en fait, j'ai pas à construire des murs. La vie peut très bien, mais je n'ai pas à construire un mur pour me dire que je suis capable de le traverser. Non, la vie peut aussi être simplement, un très très beau paysage derrière le mur sans mur, quoi. C'est juste un beau paysage avec des arbres, avec des fleurs, avec une magnifique nature, avec un ruisseau qui coule, avec une rivière qui coule gentiment et qui va vers l'océan, mais sans côté abrupt et tout ça. Et le fait de ne plus avoir à me créer de mur, peut-être, j'en sais rien, hein, on va voir, mais je suis à la découverte de ça, justement, de cette possibilité-là de me dire, en fait, je n'ai pas à me construire ces murs-là.
C'est quoi pour toi la réussite?
Mais justement, toi, l'idée de la réussite, je l'enlève un petit peu parce que j'ai pas envie d'avoir l'idée de l'échec qui s'oppose, l'un ou l'autre, donc qui s'oppose. Et donc, pour moi, là, je pense que la plus belle réussite, c'est de parvenir à être bienveillant envers soi. Je me dis, si je parviens déjà à évoluer le plus possible là-dedans, ce sera déjà... Parce que tout va découler de ça, de toute façon. Donc, mais il y a des choses, il y a la réussite, mais il y a des choses dont je suis fier aussi. Quand même, je pense que j'ai le sentiment d'avoir aidé quand même pas mal de monde avec le spectacle. Donc ça, c'est une fierté, mais je me dis pas que c'est une réussite, mais c'est quelque chose qui est... Et j'en ai pas besoin spécialement. Enfin, j'ai pas besoin de me nourrir de ça, du réservoir de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui me plaît.
C'est de la fierté bien placée.
C'est ça, je pense. Oui, c'est un sentiment d'achievement là-dedans. D'autres trucs aussi avec les enfants aussi, c'est chouette. Même toutes les années que j'ai pu vivre avec ma femme ont été très sympas. Et donc voilà, je suis heureux d'avoir pu construire ça. Maintenant, je suis heureux de construire quelque chose aussi de nouveau. Donc voilà, oui, c'est plutôt dans cette bienveillance là. J'ai envie de, tu vois, le barrage aussi, tu vois, ce barrage, c'est très bien, c'est quelque chose qui, je suis vraiment dans mon kayak avec ça, parce que tu vois, c'est pas vraiment c'est un spectacle qui est quand même un peu intimiste, qui est quand même où on parle de la relation à soi, de la relation aux autres, etc. Donc je sais que ça aide des gens, tu vois. Donc ça, c'est en même temps, tu vois, c'est cette partie de moi que je sais pas où je vais avec ça, mais c'est impossible de ne pas le partager. Tu vois, c'est parce que je l'ai depuis 25 ans avec moi. Les enfants ont grandi avec ces idées de rivières, de lacs, de barrages, etc. Donc, alors, je sais pas si c'est utile ou pas de le comprendre. Moi, j'ai l'impression que ça l'est. Ça donne une vision facile du monde. Tu vois, il y a une prof un jour qui me dit, moi, c'est très facile maintenant. Avant, les 30 glorieuses, c'était très compliqué à expliquer. Maintenant, je l'explique en une demi-heure avec cette image-là. On le comprend très facilement. Donc, alors, est-ce que ça va être un truc énorme où ça va être dans les standards? Est-ce que ça va juste rester intime? J'en sais rien. J'ai envie que plein de gens découvrent cette image-là parce que je pense que ça peut être utile pour eux. Tu vois, c'est pas pour ma réussite, moi, mais en même temps, ce serait une conséquence. S'il y a plein de gens qui trouvent ça bien, j'en aurai les fruits et je serais très heureux parce que je me dirais mon intuition, était bonne, tu vois. Mais pour le moment, je suis dans ce kayak et on va voir.
Qu'est-ce que tu penses que le petit Paul de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui ?
Le petit Paul de 6 ans, il se disait peut-être pas grand-chose. Le petit Paul de 6 ans, peut-être qu'il se dirait, sûrement, enfin maintenant, il se dirait, tu peux te détacher de l'histoire de tes parents, peut-être ? Tu vois, le petit Paul à 14-15 ans, il voulait vraiment construire, il voulait montrer à son père qu'il était possible de rester pour les enfants, d'avoir une vie de couple réussie. Et peut-être que le petit Paul de 6 ans dirait, oui, tu peux te détacher de l'histoire de tes parents et vivre ce que tu as à vivre le plus sereinement possible.
On dit que quand dans la vie on fait des choix, on a des renoncements. Ça a été quoi du coup toi pour ton renoncement?
Mais c'est vraiment un très gros truc, c'est de... Je me questionne vraiment sur la part du choix. Quels sont vraiment nos choix? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu le choix ou pas? Tu vois, est-ce que choisir Unilever, c'était un choix ou pas? Je suis pas sûr. Les choix que j'ai faits étaient évidents quand je les ai faits. Parfois, ça s'est pas bien passé. Et j'aime bien, mais c'est Franck aussi, l'Obvet, qui a cette image-là que j'aime beaucoup, qui est de dire qu'en fait, on est un peu comme une mouche dans un train. Et en fait, le train, ta vie, tu vas de Paris à Marseille, t'es dans le train de Paris à Marseille. Donc voilà, tu vas finir à Marseille, quoi qu'il arrive. Mais malgré tout, dans le train, la mouche, elle peut voler, elle peut aller à gauche, à droite, elle peut monter, elle a toute la liberté qu'elle veut, d'action qu'elle veut, et malgré tout, elle est dans le train. Et pour moi, c'est ça, la rivière un petit peu aussi, c'est dire, voilà, j'ai ma rivière. Le courant m'entraîne quelque part. À un moment donné, il est trop fort pour moi. Quel est mon choix? Est-ce que j'ai vraiment le choix de résister? Est-ce que j'ai vraiment le choix d'y aller? Est-ce que, à d'autres moments, j'aurais pu être construit différemment et prendre d'autres choix sûrement? Tu vois, je suis ce que je suis. Et donc, voilà, c'est le grand questionnement que j'ai maintenant. C'est quelle est la part véritablement jusqu'où on est vraiment libre de choisir ou pas? Ou jusqu'où nos choix sont vraiment libres, ou jusqu'où ils ne sont pas prédéterminés par rapport à notre histoire ou à notre vie. Je ne sais pas trop.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer dans ta vie? Comment tu l'as surmontée?
Je pense que... Est-ce que c'est une... Oui, la séparation, le fait que oui, ma séparation, c'est sûrement le point le plus difficile. C'est venu nul. Enfin, je m'y attendais pas. C'est pas du tout comme ça. C'était contraire. J'ai jamais imaginé une seule seconde. En fait, moi, j'étais parti vraiment. Donc, j'ai pas vu les signes avant-coureurs non plus. Enfin, je la voyais plus distante, mais je me disais, c'est lié à elle, à ses choix, à elle, à ses problèmes. Donc, j'étais plutôt dans l'idée de la soutenir, toi, dans ses questionnements personnels dans lesquels elle était, et ça, ce que je pouvais tout à fait comprendre. Et donc, j'ai pas compris pourquoi elle s'était fait une autre image de moi que ce que j'imagine que je suis. Mais bon, voilà, c'est son chemin à elle aussi là-dedans. Mais donc ça, c'est une difficulté en fait, oui, de pas être compris comme on aurait bien aimé l'être. Cette difficulté là a été alors comment est-ce que je la surmonte? Voilà, je la surmonte maintenant. Je pourrais pas dire que je pense que c'est comme quand on perd un enfant ou des choses comme ça, ou quand on perd un membre, une jambe, ou quoi. Je pense à Philippe Croizon, tu vois, qui est un copain, Philippe Croizon, qui a perdu ses bras et ses jambes, et qui est un type qui est extraordinaire, qui a une pêche, qui a un dynamisme incroyable. Il dit, tous les jours, je regrette de pas avoir mes jambes. Et en même temps, j'aurais qu'une envie de retrouver ma vie d'avant. je suis bien plus heureux dans ma vie aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est vivre avec cette dualité-là. Tu vois, c'est en même temps, c'est de, je serais toujours triste de pas voir continuer ma vie de couple. Et c'est pas pour ça que ça m'empêche non plus d'avoir de vivre totalement joyeusement la vie future. Tu vois, c'est pas l'un ou l'autre. En fait, c'est accepter les deux. C'est accepter que la vie n'est pas exactement comme on l'avait imaginé, et en même temps de pouvoir la vivre le plus pleinement possible. Ouais. Peut-être ça, cette difficulté-là à surmonter, mais on la surmontera jamais. Enfin, tu vois, c'est d'apprendre à vivre. Enfin, c'est de vivre joyeusement avec ça.
Ouais, tu vois, j'en parlais avec ma psy il y a pas longtemps, qui me disait, elle me faisait une séance de MDR et j'avais encore un peu d'oppression dans la poitrine. Et elle me dit, en même temps, peut-être que vous savez, c'est normal qu'elle soit pas complètement partie parce que ça fait partie de votre histoire et que, bah, voilà, vous aurez toujours une blessure et que cette blessure, elle vous permettra aussi de vous rappeler à certains moments dans votre vie elle vous aidera, en fait.
Ouais. Mais il faut qu'elle soit cicatrisée. Toi, une blessure cicatrisée, il y a une cicatrice, il y a une marque. Elle peut être belle, elle peut être jolie, elle peut être tout ça, qu'à un moment donné, il y a plus de marque. C'est pas l'état d'esprit dans lequel je suis. Ou toi, il y a parfois des gens justement où c'est trop douloureux de le vivre et donc ils enlèvent, ils veulent ne plus y penser, ne plus en parler, etc.
Bah, d'autant plus quand t'as des enfants, t'as un lien à vie.
Un lien à vie, c'est ça, tu es obligé de continuer.
Et puis, ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de l'histoire. Tu peux pas t'enlever, toi, 27 ans, moi, 17 ans, peux pas.
Enfin, non, c'est pas possible. Non. Et je pense que ce serait pas sain d'enlever, enfin, de s'enlever.
Ah, bah, bien sûr.
Et puis, il n'y a pas de raison de l'enlever. Et aussi, peut-être, de ne pas transformer le passé en voyant tel qu'il était, et aussi se souvenir des bons moments aussi. Je trouve que c'est toujours bien, mais pas dans la nostalgie, mais de se dire que c'était aussi...
Oui, pas se dire...
Et dans le... espèce de salaud, et puis dans la colère qu'on sent, ça, c'est pas... J'aime bien l'idée du pardon, en fait, ou de cette colère. En fait, c'est comme si on tenait du charbon dans la main, en disant je suis en colère, etc., et en disant je veux pas lâcher, et en fait on se rend pas compte, c'est on continue à se brûler en fait parce qu'on ne lâche pas le charbon, et juste le pardon, c'est en fait lâcher le charbon pour cicatriser et de ne continuer à rester dans cette... Donc c'est d'abord un cadeau qu'on se fait à soi, c'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre, tu vois.
J'ai pas fini de le lire, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Le Pardon de Jean Monbourquette, qui est un petit hasard de la vie. En gros, c'est un ostéo-kinésiologue qui m'a recommandé ce livre en me disant vous avez un problème vous avez une problématique sur le pardon. J'ai dit oui, je confirme. Et il m'a recommandé ce livre et clairement ils disent pardonner, ça veut pas dire oublier. Non. Et avant tout, en effet, c'est pardonner, c'est de se dire bah ça a existé, mais j'ai envie d'avancer. Et disait que le pardon commence à partir du moment où tu n'as plus envie de te venger. De la personne qui t'a offensé. Et c'est hyper, parce qu'en fait, tu dis, c'est hyper salvateur avant, enfin, même ce qu'on dit tout à l'heure. Mm-hmm. C'est déjà, sans passer penser à l'autre, juste penser à sa gueule en étant, de dire, si je pardonne, je vais aller mieux. Donc.
Et ça peut être, je te pardonne, c'est pas pour ça que j'ai envie de te revoir ou que j'ai envie de continuer à, j'ai juste envie de ne plus être dans la colère, de l'autre sentiment, etc., par rapport à ce qui s'est
passé. Exactement.
C'est un cadeau, c'est
clairement, je pense à une personne en particulier qui est pas mon ex-mari, je pense à une autre personne. Cette personne, j'ai presque pardonné, presque, on n'y est pas encore, mais je suis sur le chemin. Clairement, cette personne, je ne veux plus jamais la voir de ma vie, je ne veux plus jamais en entendre parler. C'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un que je considère bien. Mais j'ai envie d'avancer, donc je suis plus dans la rancœur vis-à-vis de cette personne. Voilà, ça ne veut pas pour autant dire que cette personne, je veux qu'elle réintègre dans ma vie, au contraire. Parce que justement, tout ça, ça te permet aussi de prendre conscience de qui tu veux avoir dans ta vie et qui tu ne veux plus avoir dans ta vie. Et te dire, cette personne, je ne l'ai jamais sentie. Pourquoi je l'ai gardée dans mon entourage?
Pourquoi elle est arrivée aussi?
Et se dire, j'en parlais hier avec une amie, je dis, mais en fait... Justement, cette petite voix qui te dit, il y a des gens, t'as l'intuition que c'est pas des personnes bien. En fait, suis ton intuition, en fait. S'il y a des gens, tu penses que c'est des gens pas bien, mais en fait, ne perds pas ton énergie avec des gens qui ne sont pas des gens bien, en fait. Ouais, ouais.
Et pour revenir par rapport aux pardons aussi, c'est là où c'est la difficulté par rapport aux parents, à nos parents aussi, d'être pardonné à nos parents. C'est qu'on se dit, ben, ils nous ont blessés, ils nous ont fait ça et ça et ça, et en plus, c'est moi qui dois faire la démarche de leur pardonner. Donc, ça nous met encore plus en colère en disant, oui, ils font rien, ils s'en foutent et ils font rien. Et l'idée de moi, c'est, on ne pardonne pas pour eux, c'est pas pour qu'eux se sentent bien. C'est comme si notre colère, en fait, punissait l'autre. On imagine que le fait qu'on leur en veuille, ça change la vie de l'autre. Mais non, l'autre, on le voit même plus, on lui parle plus, ou on le voit tous les 6 mois. L'autre s'en fout qu'on lui en veuille ou pas. Globalement, ça change pas sa vie. Et donc, c'est en fait.
Les parents, ça les rend tristes de voir qu'on leur en veut, mais parce qu'eux, ils se disent, moi, j'ai fait le meilleur avec tout mon cœur, avec. Ouais. Et donc, du coup, d'autant plus les parents, c'est ouais. Encore plus compliqué,
quoi. Ouais. Et donc, l'idée, c'est, mais ça, mais donc, c'est pas. Contre eux ou enfin c'est pas pour eux que tu fais ces démarches là, c'est d'abord tout pour toi, pour
c'est ça, c'est pour être bien avec soi-même, bien sûr. Oui. Clairement, si tu croises quelqu'un là dans la rue qui connaît pas du tout ta vie et qui te dit oh, non mais c'est génial, vous avez écrit un livre, vous avez donné des milliers de conférences, vous en êtes là uniquement grâce à de la chance, mm-hmm. Qu'est-ce que tu leur réponds?
Non, mais nouveau, enfin c'est les hasards de la vie, c'est le destin, c'est le c'est mon parcours et c'est là où je trouve que j'aime beaucoup l'idée, tu vois, pour moi dans la rivière par rapport au barrage, c'est que ce que j'adore, que dans la rivière on peut s'inspirer des autres, on peut s'inspirer des parcours des autres, mais chaque parcours est unique, alors que dans le barrage on se compare aux autres, où tu as besoin d'avoir plus mais tu as pas la possibilité d'être toi-même en fait, parce que tu t'occupes pas du toi. Et donc dans la rivière, moi, enfin, l'image que j'ai de cette rivière, c'est que chacun a son parcours de vie et que l'un n'empêche pas l'autre. On n'est pas dans cette concurrence où on doit avoir, si toi tu prends plus de place dans le barrage, c'est qu'il y a quelqu'un qui en a moins. Et donc c'est une autre mentalité. Et donc oui, si tu es dans la logique du barrage, quand tu vois quelqu'un qui a une grande parcelle, tu dis il y a de la chance ou c'est un salaud parce que moi j'ai moins de place que lui, etc. Enfin donc dans cette logique-là, dans la logique de la rivière, non. On a chacun notre parcours et moi j'adore m'inspirer des histoires des autres justement, et donc j'ai pas de jalousie par rapport aux autres parce que je sais que je suis mon parcours, qui est ce qu'il est, avec des beaux côtés, avec des côtés plus difficiles, avec des côtés justement où parfois j'ai envie, tu vois, il y a des moments où au début où j'avais pas d'argent pour faire le plein d'essence de ma bagnole, tu vois, enfin donc et c'est vrai que tu vois, un des trucs au début quand j'ai commencé à remettre ma pyramide à l'endroit, c'est parce que j'ai entendu des gens qui en parlaient et tout ça, et des gens notamment ou des Tony Robbins ou des gens comme ça, tu vois, qui disaient il faut faire ça, oui, et la première réaction, c'est facile pour lui quand il gagne quand il gagne tout l'argent qu'il gagne, c'est facile de penser comme ça. Et il a fallu que je me rende compte qu'en fait c'est parce que j'ai commencé à penser comme ça que j'ai pu aussi construire ce que j'ai construit. Et donc quand certaines personnes nous disent des trucs, ils sont sincères dans la démarche de dire ben mettez d'abord votre pyramide dans l'endroit et puis vous allez voir. Ils l'ont fait aussi. Ils ont pris ce risque-là dans leur vie de partir de zéro. Et pour ça, toi, mais ça peut être les inventeurs, les cuisiniers, les chefs d'entreprise d'il y a quelques années aussi, les André Citroën ou les gens comme ça, en fait, c'était passionnés par la mécanique, ils ont créé une bagnole, ils ne voulaient pas créer une entreprise, ils ne voulaient pas gagner plein, enfin, tu vois, c'est d'abord dans l'idée de découvrir, dans l'idée de l'invention, de la création, et il y a encore plein de gens qui sont dans cette dynamique, dans cette logique-là, et je pense que le monde dans lequel on entre aujourd'hui, ben, a de plus en plus besoin de gens comme ça, qui vont créer, qui vont trouver une solution pour un problème, n'importe lequel, qui vont apporter un peu d'aide aux gens, qui vont trouver une manière différente de faire, mais la créativité est sans limite.
Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir, et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui?
Un conseil que j'aurais aimé recevoir, ça peut être un conseil que j'ai reçu, donc peut-être un conseil que j'ai reçu qui a été très utile, c'était You can do it. J'ai passé 2 étés chez un soldat américain qui était amoureux de ma mère pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est venu en Europe Il était un jeune soldat de 20 ans. Et puis, il a rencontré ma mère qui avait 16 ans. Lui est tombé fou amoureux de ma mère. Ma mère, il voulait ramener ma mère aux États-Unis après la guerre, etc. Ma mère était orpheline, elle n'est pas partie. Mais ils sont restés en contact avec, et 40 ans plus tard, il est revenu en Europe. Et puis, en fait, c'était un fermier. Il a un très gros ranch, près de Dallas. Et j'ai dépassé 2 étés là-bas. Et il m'aimait beaucoup parce que j'étais un peu, justement, j'étais le prolongement de son histoire d'amour de jeunesse et tout ça. Enfin, donc, il était très, très sympa. Mais c'était un peu, un Texan typique avec son grand chapeau et ses mains fermiers et tout. Et donc, j'étais dans les champs et je conduisais le tracteur et tout. Et puis, un jour, sur une route, il fallait qu'un chauffeur pour un gros camion que j'avais jamais conduit, un énorme truc qui transportait les moissonneuses batteuses et tout ça. Et je dis, mais j'ai jamais, et il fallait quelqu'un, parce qu'on était à 300 kilomètres, il y avait personne, ça. Et, je dis, mais j'ai jamais fait. Il me dit, you can do it. Et donc, il m'a fait totalement confiance en me mettant dans le camion et en me disant, et hop, et je suis parti avec cet énorme truc. Et donc, ce you can do it, et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire. Donc, ce you can do it, c'est quelque chose qui est un truc intéressant.
C'est quoi tes prochains défis?
Prochain défi, c'est mon barrage. Maintenant, mon barrage et ma rivière. Et aussi, mon prochain défi, c'est de reconstruire ou de continuer à construire, en fait. Même pas reconstruire, parce que j'aime pas, parce que c'est, mais de continuer à construire la famille, maintenant, avec justement les interactions qu'on a, avec les enfants d'Elisabeth, les miens, et comment est-ce qu'on fait, ils sont tous grands, mais en même temps, enfin, voilà, c'est passer ce cap-là, c'est de transformer les lieux d'habitation, les trucs, etc., les projets qu'on va voir ensemble, enfin, de repartir sur d'autres bases. Donc ça, c'est un beau challenge. Et puis aussi, j'accompagne une start-up aussi, c'est laquelle j'aime beaucoup. Enfin, il y en a deux. Donc voilà, il y a des défis professionnels aussi, des défis professionnels et personnels. Donc, il y a de quoi faire.
Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous?
Conseil de lecture, il y en a mille. Ça dépend, est-ce que c'est des lectures plus anciennes, plus...
Tout est possible. Tout est possible.
Tout est possible. Une lecture qui m'a beaucoup aidé, c'était Transformer votre vie de Louise Hay. Ça, je l'ai trouvé ça, j'aime beaucoup. Sinon, une autre, mais ça, plus pour mon côté parent, c'était les livres d'Alice Miller. Il y en a un qui s'appelle C'est pour ton bien. Il y en a un qui s'appelle L'enfant sous terreur. Et le drame de l'enfant doué, ça c'est les trois. Et ça c'est des livres. Bon, enfin moi j'ai Alice Miller, elle a vraiment un impact énorme pour moi dans ma vie. Comprendre vraiment le justement cette pédagogie noire, l'importance de cette petite voix, l'importance de comment notre passé nous conditionne, nous pousse à reproduire des choses plus ou moins conscientes. C'était fabuleux. Justement sur la bienveillance avec les enfants, c'est quelque chose de capital pour moi. J'ai été très très sensible à ces lectures.
Super. Alors du coup, si on veut venir voir tes spectacles, je mettrai le lien du coup vers ton site, comme ça il y aura toute l'actu, le lien vers ton livre également.
Ouais, Parabole des kayakistes.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
À toi, déjà, pour cette heure et demie, ou je sais pas combien, c'était long pour finir. Qu'on a passé ensemble, à ton sourire, à ta résilience et à ce que tu fais, pour faire passer des messages. Et puis aussi Elisabeth, maintenant, qui est une magnifique, le magnifique surprise, hasard, destin, rencontre. Qui se passe, et puis à mes enfants, et puis à mes parents, et à mes sœurs aussi, à mes beaux-frères, à tous les gens qui me sont proches, à la vie en fait, à la vie qui m'a permis de vivre des moments incroyables et parfois plus difficiles aussi, et en même temps voilà, c'est ça, mais c'est tout cette construction personnelle, cette richesse là de passer tous ces caps.
Un grand, grand, grand merci, Paul, pour ton histoire, pour ton authenticité et puis pour tous ces messages pleins d'espoir que tu partages avec nous aujourd'hui.
À mettre en pratique maintenant.
Et ben voilà, il n'y a plus qu'un.
Si ça peut inspirer une personne, tu vois, voilà, c'est...
J'en suis sûre et je suis sûre que ce ne sera même pas qu'une, ce sera des milliers. Merci beaucoup.
À très vite, Charlotte.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine!